Bonjour François.
Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 67 de la gêne occasionnée. Après la zone d'intérêt, on passe à une zone à défendre.
Une ZAD.
Une ZAD.
D'accord. Ça serait quoi la ZAD,
c'est
la...
Bah, notre ZAD, c'est la littérature.
Bah oui, bien sûr. Attends, j'aurais dû le deviner.
Et comme on s'apprête à parler littérature et que je faisais allusion à l'épisode précédent, il se trouve qu'il y a un auditeur qui a réussi à traduire, tu sais, la phrase inscrite en allemand dans l'écurie de la zone d'intérêt.
Ah, ils sont forts, ces auditeurs.
Ouais.
Ouais. Et donc, c'était...
Le bonheur de la terre repose sur le dos des chevaux.
Ah ouais. Ok. Ce qui est assez approprié au contexte de l'écurie. Nous, on avait imaginé des trucs plus décalés, mais non, en fait, c'est pas ça. Okay.
C'est une phrase qui sonne littéraire.
Ouais.
Donc, c'était pour faire la transition.
Du coup, on s'est dit, on va faire une gêne littéraire. D'accord, je vois bien ton raisonnement.
Okay. Donc, merci à Franz pour sa traduction.
Ah, ben c'est un Allemand peut-être lui-même.
Un Franz. Alsacien peut-être.
Ah oui. Donc, il a moins de mérite.
Avant de commencer. Je rappelle qu'une gêne littéraire s'appuie sur des passages du livre, phrases et passages qu'on vous a partagés sur nos pages Twitter et Facebook.
Parce qu'on est partageurs.
Et à partir desquels on analysera le livre et le style d'Élodie Fiaban.
Alors, il faut peut-être préciser quand même que ça fait quand même deux gênes littéraires qu'on fait cette année, avec deux livres de Flammarion.
Oui.
Donc est-ce qu'on aurait des intérêts du côté de Flammarion? On va savoir. Moi je pense que je suis en mode un peu suspicion.
Moi j'en ai pas, mais peut-être que toi t'en as.
C'est sans doute. Je me demande si j'ai. Faudrait que je voie mon compte en banque si j'ai les virements de Flammarion. C'est possible. Bon, par ailleurs, ce sont. Déjà, sûrement, on l'avait bien dit, c'est une amie. Mm. Et sauf qu'Élodie Fiaban aussi.
Ah.
Mais oui.
Ah ben voilà.
Donc là, quand même, la gêne occasionnée commence à sentir un petit peu le conflit d'intérêts, ou alors le copinage, la copinerie, le retour d'ascenseur, mm. Le renvoi de service. C'est pas très joli.
Non. Ouais.
Peut-être que bientôt, on va se rendre compte qu'en fait, je suis le frère de Paul Thomas Anderson. Et que Michael Haneke est mon oncle.
Il va y avoir des enquêtes sur ce podcast.
Ouais, un complément d'enquête, tu sais, l'émission qui tue. Et ils vont se rendre compte que tous les gens dont on a parlé depuis le début, en fait, sont de notre famille ou sont dans le même business que nous. Non, mais oui, il faut bien préciser les choses. Il faut le dire, par honnêteté. Je connais Élodie depuis un certain temps. C'est une amie. On a même travaillé ensemble.
C'était ta monteuse sur Autonome.
Voilà. Elle est monteuse, d'ailleurs, de profession. Mais donc, elle m'a envoyé son livre en amont, avant qu'il soit publié, et je l'ai trouvé très bien. Donc, est-ce que je devrais me priver d'en parler? C'est toujours la question morale, politique et technique que je soumets à nos auditeurs.
Tu vas encore recevoir des messages sur ta page Facebook. Hein.
Des messages malveillants, j'imagine, insultants, enfin, tous les gens que j'aime, quoi.
Dans la ville, c'est donc le premier roman d'Élodie Fiaban, publié aux éditions Flammarion. Premier livre de cette autrice, donc, ce qui fait un peu de nous des défricheurs.
On défriche comme des fous. Bah d'ailleurs, on a joué dans un film qui s'appelait Défricheur. Tu te souviens ou pas? Film
ouais.
Américain.
J'avais un second rôle et toi, t'as...
Le premier. Bah écoute, c'est normal un peu.
Voilà, donc le pitch du livre, c'est dans le 13e arrondissement, une Parisienne se porte bénévole certains soirs pour venir en aide aux sans-abri de son quartier. Distribution de nourriture et de matériel de première nécessité, conversation avec celles et ceux qui dorment dans la rue. Ces tournées sont aussi l'occasion d'établir un rapport différent à la ville la nuit. Dans ce roman semi-autobiographique, Élodie Fiaban restitue l'expérience de ses maraudes dans un style au ras du réel.
Oui, bah écoute, on va passer directement au phrase. J'ai juste un truc à dire, c'est toujours un petit peu l'ambiguïté ou les approximations des pitchs. Tu vois, tu as commencé par dire elle devient bénévole ou elle se. Il se trouve que dans l'économie même de la narration du livre. C'est pas comme ça que ça se passe. La première scène, nous sommes de plein pied dans une maraude. Petite précision, parce que ça donne une mesure de ce qui a été pour moi une très bonne idée d'Élodie en commençant. Immédiat stress.
Immédiat stress, oui.
Ce n'est pas exactement la bonne expression, parce que ce n'est pas exactement une narration. Mais on est, oui, de plein pied dans une situation et on n'en sortira pas. Donc c'est vraiment un livre en situation. Et je pense que c'est. D'abord, la vraie bonne idée qu'elle a eue, de ne pas faire tout le récit qui l'amènerait à se proposer comme bénévole pour faire ses maraudes.
Droit au but, hein, comme disent les Marseillais.
Voilà, écoute, on aurait pu se passer de cette analogie avec une équipe qui, footballistiquement, restera toujours médiocre, mais on peut donc passer à la phrase.
Oui, la phrase, les deux, hein, parce qu'il y en a deux dans la page 81. Donc, je vais les lire.
Oui.
Je ne donne mon prénom, le prénom de la narratrice, que si on me le demande, ils ne le feront pas. Alors, le premier élément de la première phrase, c'est bien sûr le sujet central du livre, hein, ce « je ». Alors, cette première personne, elle fait référence à la fois au fait qu'on a affaire un matériau autobiographique, puisque l'autrice a vraiment effectué des maraudes. Mais comme il est dit plus loin, ce « je » fait aussi référence à la narratrice, laquelle narratrice est le personnage omniprésent du livre, puisque c'est à travers sa subjectivité et ses déplacements qu'on suivra la totalité des situations du roman. Et puis ce qui suit juste après ce « je », c'est la négation de cette phrase. Hein. Cette négation, elle correspond au fait que la narratrice ne donnera son prénom ni dans la situation présente, ni dans l'ensemble du roman, puisque le futur de la deuxième phrase nous le confirme, ils ne le feront pas. Autrement dit, ce « ils », couple de SDF ici, mais les sans-abri d'une manière générale, ne lui demanderont jamais son prénom. Alors, on connaissait l'homme qui n'a pas de prénom, on a maintenant la femme qui n'avait pas de prénom. Du coup, je me suis dit qu'on avait des choses à se dire.
Mmh.
J'ai donc rencontré l'autrice dans la ville.
Ah, d'accord.
Et je lui ai demandé pourquoi ce choix de resserrer uniquement sur le jeu.
Le jeu, c'est à la fois dire que c'est un récit documentaire et en même temps affirmer qu'il y a une narratrice et que c'est un récit et que c'est une construction littéraire. En fait, le prénom, ça faisait presque partie de la vie normale, celle qui est laissée à la marge. Et le centre, ça va être la maraude. Et dans la maraude, personne ne lui demande son prénom. Enfin, les sans-abri ne lui demandent pas son prénom. Donc, c'est presque un hors-sujet.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Élodie Fiaban, c'est ce qu'on retrouve dans la construction même de la première phrase. C'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, une ambiguïté autour de l'identité de qui raconte ce livre. Et ce qui se passe matériellement, c'est qu'on ressort de cette phrase avec une ambivalence autour de ce jeu. Un jeu qui renvoie, comme on l'a entendu, à l'autrice, au récit documentaire, mais également à une narratrice sans prénom, donc à la fiction. Du coup, ne pas donner de prénom à ce personnage, c'est en fait un effet de style assez habile, puisque ça renforce l'hybridation de ce personnage, qui n'est ni tout à fait réel, ni tout à fait fiction. Parce que donner un prénom fictif, ça revenait d'une certaine manière à trancher en faveur de la fiction, et inversement avec le prénom d'Élodie. Et en fait, ce qu'on statue autour de ce jeu, équivaut à statuer sur la nature de ce livre, à savoir un livre où se tressent moments réellement vécus et fiction. Alors, l'autre information autour de ce prénom, c'est ce qui se joue du point de vue de la perception qu'ont les sans-abri de ce jeu. Ce que sous-entend le texte par le fait de ne pas demander le prénom de la narratrice, c'est de dire qu'elle n'est perçue que comme une manifestation de la structure associative dont elle dépend, et non pas comme un individu.
Ouais, je pense que tu as dit l'essentiel. Moi, j'ai envie de lire la phrase en enlevant ce qui est incisé au milieu. Je ne donne mon prénom que si on me le demande, ils ne le feront pas. Le « il », c'est effectivement les sans-abri, comme tu l'as dit. Et là, effectivement, ça témoigne de quelqu'un qui va être loyal à la réalité de ce qu'elle vit. Dans la mesure où ce prénom ne lui est jamais demandé, elle ne le donnera pas. Mais ça, c'est une affaire entre la maraudeuse qu'elle a été pendant un hiver et les sans-abri.
Elle me disait.
Oui, mais là, nous avons le texte, ça ouais. N'embrasse que, je pense que ça commence en décembre, ça finit au printemps à peu près. Elle a choisi cette unité de temps, ce qui est plutôt habile de sa part, je pense, et en plus très réaliste. Mais effectivement, il y a cette espèce d'incise là, le prénom de la narratrice. Alors là, on voit bien que ça, c'est pas du tout une information qu'elle donne aux sans-abri. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle s'extrait un peu de la situation et elle fait un clin d'œil vers qui ? Vers le lecteur, bien sûr. Parce que la narration, la narratrice, c'est une catégorie littéraire équivaut. Alors là, on aurait un cas de ce qu'on appelle en théâtre la double énonciation, ce qui est une tarte à la crème un peu des études de dramaturgie, hein, mais sur une scène de théâtre, mais ça vaudrait au cinéma aussi. A est en train de parler à B, le personnage A est en train de parler à B, donc là, c'est une énonciation. Mais en fait, dans le temps qu'il parle à B, il est en train de parler au spectateur. Il est en train de livrer au passage des informations au spectateur, de faire avancer l'intrigue. Enfin, tout un tas de choses, il est en train de s'auto-présenter sous couvert de parler. Et là, il y a une double énonciation, c'est-à-dire qu'à la fois, nous sommes dans la situation, la maraudeuse parle, ou en tout cas soustrait une parole aux yeux des sans-abri, et par ailleurs, elle soustrait aussi son prénom pour le lecteur. Alors pourquoi est-ce qu'elle a choisi de soustraire ce prénom ? Elle a déjà fourni un élément d'explication, puis toi aussi, tu viens d'en fournir un. Moi, je pense que c'est toujours intéressant de voir que c'est une façon de casser un tout petit peu l'évidence autobiographique, l'espèce de tautologie autobiographique. Parce que le pacte autobiographique, c'est quand l'auteur lui-même raconte sa vie et sa vraie vie en disant c'est la vérité. Là, c'est pas exactement une autobiographie parce que ça concerne qu'un tout petit segment de sa vie. En même temps, il y a vraiment l'idée qu'elle nous raconte sa vie, quoi. Et de fait, à ce moment-là, s'opère une espèce de fusion entre autrice, narratrice et personnage. Elle casse ça. L'autrice, elle s'appelle Élodie Fiaban, c'est écrit sur le livre. Ça, il n'y a pas de problème, elle est prénommée. Elle a voulu absolument que la narratrice n'ait pas de prénom. Elle aurait pu, hein, parce qu'en fait, là, c'est une ruse qu'elle fait. Parce que parfois, il arrive qu'elle donne le prénom de certains de ses collègues. Coéquipiers. Oui. Donc, elle aurait très bien pu, au fil d'une conversation qu'elle aurait avec un de ses coéquipiers, qui, lui, l'appellerait totalement Elodie. Mm. Donc, c'est en fait un choix littéraire qu'elle fait. C'est pas simplement un choix de réalisme, genre, bah, puisque les SDF ne s'enquièrent jamais de mon prénom, je le donnerai pas. Non. Il était tout à fait possible qu'elle le fasse, en fait. Le réel lui donnait l'occasion de le fournir. Mais elle ne veut pas. Parce qu'elle veut effectivement créer une dissociation entre autrice et narratrice, qui est un truc très compliqué à faire comprendre, d'ailleurs, quand t'expliques ça à des élèves, par exemple. Ouais. Parce que des fois, la distinction entre auteur et narrateur est très claire quand tu as un livre où le narrateur lui-même est un personnage et qui ne porte pas le même nom, fictif, par exemple. Bon, je sais pas, dans Lolita, l'auteur s'appelle Vladimir Nabokov et puis le narrateur, il s'appelle Humbert Humbert. Et il raconte sa vie et ses forfaitures. Et il y a une distinction, c'est une fiction très largement. On ne peut pas imputer à Nabokov tous les vices de Humbert Humbert. Donc dans ce cas-là, la différence, elle est très claire. Mais la différence dans le cas d'un livre comme celui d'Elodie est très théorique, en fait, entre autrice et narratrice. Bon, il faut vraiment un coup de force de sa part pour imposer à son lecteur qu'il y a une dissociation. Et la dissociation, tu l'as un petit peu dit. C'est l'idée que, d'une certaine manière, d'avoir à raconter ma vie produit un personnage qui n'est pas exactement le personnage qu'il a vécu. Donc, c'est-à-dire que la personne, l'individu Elodie Fiaban qui fait des trucs, à qui il arrive des choses, ça ne sera jamais exactement la même que celle qui raconte exactement les mêmes trucs et exactement les choses. Et ça, c'est la chimie particulière de la littérature. C'est-à-dire qu'à un moment, ça produit un personnage de papier, qui est à la fois narrateur et personnage, à qui elle aurait pu, par exemple, donner un autre prénom. Mais ça, ça aurait été, je pense, un peu trop poseur et ça aurait été, pour le coup, très mensonger. Donc, je trouve qu'elle a fait le bon choix en soustrayant le prénom. Tout ça nous renvoie peut-être un peu à ce qu'on avait vu avec Joyce Ormond, qui a négocié différemment à peu près la même intention, en se dédoublant en Barthes, pour ceux qui auraient suivi la gêne littéraire précédente. La situation que tu crées en écrivant un livre est une situation spécifique, qui produit des êtres de papier qui ne sont pas exactement les êtres de chair et d'os qu'on peut croiser dans la rue. Même dans le cas d'un récit archi-documentaire comme celui d'Elodie, et archi-documentaire avec quelques saillies fictionnelles de Joy. C'est vraiment important de le dire. Il y a une autre phrase que j'aimerais bien lire, juste pour la beauté presque de la phrase. C'est page 44, elle dit « La maraude biaise la rencontre qu'elle permet. » Bon, ça déjà, c'est une putain de phrase qui témoigne d'une sorte de concision classique. Pourquoi la maraude biaise la rencontre qu'elle permet ? Elle permet la rencontre, bien sûr. La narratrice n'aurait jamais rencontré tous ces sans-abri si elle ne s'était pas proposée comme bénévole. Oui, mais pourquoi ça la biaise ? Ben parce que ce n'est pas une vraie rencontre. C'est une rencontre qui est biaisée par l'intentionnalité qui est d'aider ces gens. Ce n'est pas ça une rencontre dans la vie. Une rencontre dans la vie, ce n'est pas « je vais à toi parce que je t'aide ».
Oui, surtout dans la vie, quand tu rencontres des inconnus, il y a quelque chose de fortuit aussi.
Oui, c'est ça. Là, il y a du fortuit, parce que parfois, ils tombent sur des trucs qu'ils n'avaient pas prévus. Mais globalement, ils ont quand même un parcours assez balisé, fléché. Ils ont leurs automatismes, ils retrouvent toujours un peu les mêmes, etc. Alors après, elle continue. « L'envie d'écrire vient de ce biais sur lequel je dois enquêter, de cette courbe dont je dois calculer la tangente pour trouver l'espace de mes phrases. » Je ne suis pas sûr de bien comprendre les attendus mathématiques et géométriques de cette phrase. Je crois savoir qu'Elodie était plutôt matheuse au lycée. Moi, je ne comprends pas tout, tangente, tout ça, mais je crois que je comprends globalement et suffisamment pour dire que précisément, ce qui m'intéresse dans le biais, c'est que le biais crée un écart et que dans l'écart s'immisce la littérature. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle tient absolument à ne pas se prénommer Elodie. C'est parce que si tout se rabat sur tout, tu n'as plus de place pour l'écriture. Tu ménages un espace pour l'écriture à partir du moment où tu crées des petits écarts qui fabriquent un interstice dans lequel tu vas écrire. Je pense que ça, elle l'a parfaitement compris. On voit aussi dans cette phrase à quel point elle compte bien être son propre sujet. C'est un livre auto-analytique. C'est évidemment un livre dont la première qualité est de nous présenter les sans-abri, nous les faire voir, de les faire entendre. Mais je pense la valeur ajoutée du livre, vraiment sa touche, c'est qu'en fait, l'autrice Elodie, ou la maraudeuse qui n'a pas de prénom, n'arrête pas de s'auto-analyser.
Elle s'interroge elle-même et puis elle interroge aussi son sujet, son environnement.
Ouais, c'est ça.
À travers elle.
Elle se prend comme cobaye d'une espèce d'expérience ou de livre qui essaierait d'analyser ce que c'est que la ville. Et elle ne mêle pas la ville dans des grandes considérations générales, la ville telle que vécue.
Ouais, et puis elle interroge même des mots et des expressions qu'on a l'habitude d'utiliser un peu de façon dévoyée, en fait. Notamment un terme, page 31, le spot, en désignant que tu vois un sans-abri a trouvé un bon spot.
Ouais, ouais.
Alors qu'habituellement, on dit ça quand on fait du surf.
Tout à fait.
Toi, tu connais bien ça.
Par extension, d'ailleurs, de dire que, par exemple, on peut dire entre amis, « Ah oui, ce café-là, chez Bernard, c'est notre spot. » Et effectivement, il y a un titre, parce que le livre est chapitré de façon très courte, pratiquement, on va dire, un sans-abri par chapitre, c'est pas vrai en fait, mais c'est à peu près ça. Et il y en a un qui s'appelle effectivement un bon spot. Et ça désigne le lieu que s'est trouvé un sans-abri. Mmh. Ce qui témoigne déjà de quelque chose qu'on va creuser un peu plus à travers les autres phrases.
Ouais. Allez, on enchaîne avec un premier groupement de phrases. La première, elle est située page 24 et la deuxième, page 161. Donc, est-ce que tu veux bien nous les lire, les phrases ?
Mais très volontiers, cher homme qui n'a pas de prénom. Cousin, donc, de la narratrice qui n'a pas de prénom. Page 24. Nos métiers et nos chômages nous donnent le temps de consacrer un soir par semaine et certains samedis à l'institution. Et page 161, c'est beaucoup plus loin dans le livre, mais on les a groupés. On est content de rencontrer un nouveau sans-abri. C'est de la curiosité que d'aucuns pourraient trouver mal placée pour ce nouveau qui nous offrira peut-être son histoire. Un nouveau nous offre aussi l'espoir de pouvoir l'aider.
Yes, merci. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire sur ces deux phrases, c'est...
Toi, tu les groupes ?
Ouais, je vais les grouper.
Bah, t'as raison. Non, je trouve ça hyper puissant.
Ouais, parce que j'ai pris le pli la dernière jeune littéraire.
Ok.
Alors, ce qu'on peut dire sur ces deux phrases, c'est de remarquer la présence d'un autre sujet tout aussi structurant que le « je » de la narratrice. Hein, parce que, autant je disais que la narratrice était le sujet central du roman, autant le « on » ou le « nous » sont tout aussi présents parce que, un, les maraudes ne se font jamais seules du point de vue des procédures, mais aussi parce que ces pronoms ils renvoient à l'idée que ces maraudes sont indissociables d'une expérience humaine collective. Après, si je prends les phrases une par une, je dirais que dans la première, on a d'abord un élément temporel qui conditionne beaucoup de choses, à savoir le soir et par extension la nuit. Alors il y a plein de raisons qui font que ça se passe le soir, mais ce que je retiens ici avec le soir, la nuit, c'est que ça donne à ces maraudes l'aspect d'un rite, hein, que les maraudes s'effectuent à un moment précis de la journée, comme on irait à la messe le dimanche matin. Alors on retrouve ce dont je parlais tout à l'heure avec ce mix d'éléments autobiographiques réels à travers ce « nos métiers et nos chômages », puisqu'il nous est dit en quatrième de couverture qu'Élodie, et puis tu le disais, est cinéaste et monteuse, métier qui bénéficie du statut d'intermittent du spectacle, d'où le fait d'avoir davantage de temps qu'un salarié lambda. Donc ça, c'est pour le côté éléments de réel, éléments de documentaire.
C'est pour le côté « les intermittents sont des parasites », c'est ça ? Tu voulais un petit moment de droite, en fait, dans le...
Non.
Non, mais je préfère préciser, parce que ça pourrait être ambigu pour nos auditeurs qui sont un peu touchy, tu sais.
Et puis le côté fictionnel du livre, cette fois, il se cristallise dans l'invention de ce terme qu'on retrouvera dans plein de pages, hein, l'institution, le nom de cet organisme qui donc n'existe pas dans le réel et qui désigne évidemment la structure humanitaire à l'initiative de ces maraudes, l'équivalent pouvant être la Croix-Rouge par exemple.
Ouais.
Alors pourquoi institution ? Je faisais tout à l'heure un parallèle entre maraude et rite et messe le dimanche matin. En fait, j'ai beaucoup pensé au fait que l'écriture de ce livre contenait un fumet chrétien. Hein, on a par exemple dans les deux phrases un champ lexical qui y renvoie, hein, donner, offrir, espoir, aider, verbes et mots qui eux-mêmes renvoient d'une certaine manière à un ethos de la charité. Charité au sens littéral, l'amour des autres. Donc du coup, par association d'idées, je me suis jamais départi de ce parallèle entre l'institution et l'Église. Et puis, je finis juste avec le temps principal du roman, le présent, qu'on a dans les deux phrases. Bien que les situations vécues l'aient été dans un passé plus ou moins proche, l'autrice décide d'écrire son roman au présent. Et ça, formellement, on peut aussi penser que l'une des meilleures manières de restituer le réel au sens d'un récit documentaire, c'est de le faire au présent.
Oui, c'est des choix qui se discutent, qui ne sont pas forcément mécaniques. Il n'y a aucun choix mécanique, de toute façon, en narration. Elle aurait pu raconter, tu vois, dans la même logique, par exemple, je rebondis sur ce que tu dis, ce n'est pas du tout pour y objecter, mais pour le compléter. De la même façon qu'elle a voulu absolument ne pas se prénommer Élodie pour créer un écart, précisément par rapport à ce qui serait le plus attendu dans une logique documentaire, à savoir je vis la chose et donc je la raconte au présent, elle aurait pu utiliser le passé composé pour remettre une petite distance, tu vois, pour narrativiser ce qui n'a pas été véritablement vécu comme ce qui a été vécu au présent.
Oui, oui.
C'est possible, mais bon, le choix le plus évident et le plus ce qui nous paraît le choix le plus logique, c'est évidemment quand même le présent. Tu as parlé du nous, donc je n'y reviens pas. Je trouve que tu passes c'est bien que tu m'aies laissé ce qui me paraît la vraie trouvaille de cette première phrase, en tout cas, nos métiers et nos chômages. Alors, effectivement, le nous, a tendance à faire ce que la narratrice fera dans tout le livre, à savoir, elle ne se distingue jamais de la troupe des maraudeurs. Ce qui est un geste à la fois très humble et en même temps très juste, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'associe, elle n'est jamais en surplomb par rapport aux maraudeurs. Elle ne l'est pas non plus par rapport aux sans-abri, mais pas non plus par rapport aux maraudeurs. Alors que ça peut être un écueil de la narration, ça. À partir du moment où tu t'isoles pour narrer quelque chose que tu vis, tu crées toujours un peu une scène où tu te distingues des autres. Se distinguer ne veut pas dire se poser comme supérieur, mais... Du coup, tu n'es plus exactement dans le même espace. Bah oui, parce qu'il y a un espace d'écriture, puis il y a l'espace de la vie. Et si je me bombarde narratrice, alors quelque part, je m'excepte de la zone de vie où j'ai été en communauté avec ces maraudeurs, embarqués dans la même voiture et dans les mêmes soirées. Et là, elle se remet avec eux, nos métiers, nos chômages, de façon indistincte. Ce qui fait que d'ailleurs, on ne peut pas savoir si Élodie est plutôt métier, plutôt chômage au moment où elle a maraudé. Elle ne le signalera jamais. Elle ne se distingue pas de ce point de vue-là. Moi, j'aime quand même beaucoup ce générique « nos métiers, nos chômages ». Parce que d'une part, je trouve que de façon très concise, ça nous suggère, juste à l'oreille comme ça, que dans le système dans lequel on vit, sur le marché du travail, le chômage et le métier sont deux faces d'une même pièce. Le monde du travail et le marché du travail tel que constitué appellent indifféremment des phases de travail et des phases de chômage. Et tout ça est absolument absorbé par le système. On sait bien d'ailleurs que l'existence d'un certain taux de chômage arrange très largement le système, et on sait bien pourquoi. J'espère que c'est pas la peine de faire un dessin sur ces questions-là. Je trouve que là, quand même, j'entends ça, nos métiers, nos chômages, finalement, bon, aussi parce que, effectivement, le chômage est indemnisé dans nos sociétés, et que donc, ben, c'est parce qu'ils ont de l'argent en tant que chômeurs indemnisés, mais ils sont indemnisés dans la mesure où ils ont travaillé, donc on retrouve l'adossement entre les deux. L'écueil d'un livre qui parlerait de quelqu'un qui fait des maraudes, c'est de s'excepter pratiquement de la socialité, c'est-à-dire que va y en avoir pour les sans-abri, ça va être eux, vraiment on va se concentrer sur eux, ne serait-ce que par altruisme, c'est vraiment leur situation qui nous importe. Mais d'où tu parles quand tu fais ça? Ben non, il faut que tu t'inclues toi aussi, tu as un rôle social, toi aussi tu es dans la société, et il y a une mécanique sociale au travail. C'est bien parce que tu as un métier que tu as donc du temps, puisque avec ton métier tu achètes du temps, et ce temps-là tu le reverses dans des heures que tu vas consacrer au bénévolat. Et puis si c'est des indemnités chômage, ça revient au même. Moi j'aime beaucoup qu'elle tresse ça dans le même...
Oui. Et puis le tressage entre nos chômages et nos métiers, ça dit bien la centralité du travail par rapport au temps.
Tout à fait, absolument. C'est le temps s'achète en travaillant, ou en ayant travaillé pour toucher des indemnités. Bon, par ailleurs, le nos chômage, il crée une petite dissonance. Il y a beaucoup de dissonance dans le style d'Élodie. Et parce qu'on attendrait quand même nos métiers et notre chômage. D'habitude, on dit qu'on est au chômage. C'est un singulier, le chômage. D'avoir pluralisé ce truc singulier, ça crée comme si la situation de chômage était la même que celle des métiers. On est toujours, encore une fois, articulé ou suturé à une sorte de système qui, indifféremment, produit du travail ou du chômage.
Ouais. Et puis aussi, le fait qu'il y a, plusieurs situations différentes, parce qu'il y a, comme Élodie, elle est cinéaste, donc... C'est le statut d'intermittent, ouais. Et puis il y en a d'autres qui sont au chômage plus traditionnel.
Oui, avec une indemnité plus classique, effectivement. Ça, ouais. C'était, mais de la même façon, là, elle s'en distingue des autres. Alors après, tu as bien noté le lexique que tu appelles chrétien, celui de la charité, le don, nous donne le temps de consacrer aussi, c'est un truc comme ça. Puis on le retrouve dans la deuxième phrase. Et à nouveau, nous offre aussi l'espoir de pouvoir l'aider. Ben oui, bien sûr, nous sommes dans les maraudes, c'est les gens qui font don d'eux-mêmes, de leur temps à des pauvres malheureux qui n'ont pas de toit. Ok, jusqu'ici tout va bien, et Élodie ne dit que des banalités. Sauf que ce que tu as oublié de signaler, c'est que le fléchage du don est totalement inattendu. C'est pas les maraudeurs qui se donnent au SDF, c'est l'SDF qui donne aux maraudeurs. Ils donnent rien, ils donnent quoi en fait?
Des histoires.
Ah ben voilà, là elle fait un renversement qu'elle fait quand même souvent dans le livre, c'est que en fait, à qui profitent les maraudes? Au premier chef, en tout cas tel que noté par Élodie, aux maraudeurs. Et oui, ce sont. Alors, c'est pas ce qu'on attendrait, quand même, pardon, hein, dans une espèce de schéma de base de ce que c'est que ces gens qui très gentiment donnent de leur temps aux pauvres malheureux. Bah, c'est pas ça qu'elle nous dit. Et je suis bien content qu'elle torde un petit peu la représentation attendue.
Mais moi, je l'ai perçu comme quelque chose d'assez égalitaire, finalement. Du don contre don, quoi.
Oui, sauf qu'elle va beaucoup moins noter dans le livre qu'elle se donne au SDF. Elle va beaucoup plus noter l'inverse. Alors, après, elle détaille justement dans la deuxième phrase. Alors, un nouveau SDF que tu rencontres, tu dis « Ah tiens, il y en a un de plus ». Bah, c'est une mauvaise nouvelle quand même. C'est une très mauvaise nouvelle. Pardon, hein. Il y a une personne de plus dehors. D'ailleurs, ça correspond aux statistiques. On sait que tous les ans en France, il y a de plus en plus de gens qui sont SDF. Donc, mauvaise nouvelle. Voilà. Bah, sauf que c'est pas ce que j'ai dans la phrase, parce que dans la phrase, j'ai le mot content. Les maraudeurs sont donc contents qu'un mec soit malheureux. Il avait un toit, il en a plus. On en a trouvé un, c'est super, hop, trouvaille. Bon, donc paradoxe. Et évidemment qu'elle joue sur le paradoxe. La phrase « on est content de rencontrer un nouveau sans-abri » est une phrase super. Parce que très simplement et sans en avoir l'air, elle dit un truc fou, en fait. Et alors après, elle va scanner ce contentement. Elle dit « première explication » avec un présentatif. Le présentatif de l'explication, c'est de la curiosité pour ce nouveau. Et alors qu'est-ce qu'elle dit ? Effectivement, « nous offrira », donc c'est lui qui nous offre quelque chose. Il nous offre quoi ? Pas du café, pas rien, il nous offre peut-être son histoire. C'est-à-dire qu'en fait, les maraudeurs sont contents que, ah ben oui, il va peut-être nous raconter des trucs, et ça va donner de la densité, on va rencontrer quelqu'un, quoi. Mais évidemment, il faut qu'on entende immédiatement là-dedans que c'est la narratrice qui se réjouit. Tiens, il y en a un nouveau. Mais moi, ça va me faire une nouvelle histoire à raconter, ça me fait un nouveau personnage. Hein. C'est ça la perversité de l'écriture. C'est qu'à un moment, évidemment, le moi moral que tu es, je pense qu'Elodie Fiabad est quelqu'un de moral comme toi et moi, en tout cas vis-à-vis des sans-abri, n'aurait qu'une envie, c'est qu'il n'y en ait pas. À la narratrice serait emmerdée. La narratrice qui commence à méditer de semaine en semaine qu'elle va peut-être en faire un livre, elle est super emmerdée s'il n'y en a plus. Or là, hop, nouveau, donc nouvelle histoire, donc peut-être nouveau truc à raconter. Je dis ça, mais ouais. Bon, il se trouve que je connais un tout petit peu la bricole interne de l'écriture. Franchement, c'est souvent ce qui pourrait te désemparer dans la vie et même t'endolorir ou te faire souffrir, te réjouit en tant que narrateur, parce que c'est de la matière à raconter, c'est de la matière vitale.
D'où la précision de la page 80, le prénom de la narratrice. Je suis dans ce livre en tant que narratrice.
Mais oui. Je suis les deux, quoi. J'ai vécu un truc, je le raconte, et c'est pas la même créature, c'est pas le même système affectif. L'écriture produit une espèce de biais affectif qui est tout entier contenu dans ce qui nous offrira peut-être son histoire. Oui, il y a d'ailleurs une... Je voulais revenir sur ce qui me paraît la seule erreur du livre. Je ne comprends pas, vu ce à quoi nous habitue Elodie dans son style, pourquoi elle fait cette parenthèse, qui est en l'occurrence entre tirets, que d'aucuns pourraient trouver mal placée. En fait, ça ne lui ressemble pas du tout de faire cette parenthèse-là. Parce que d'habitude, elle ne fait pas du tout ça. Elle te lâche la phrase paradoxale, elle ne te commande pas le paradoxe. Ouais. Tu te démerdes avec ça. Moi, je te dis, on est content de rencontrer un nouveau sans-abri.
Ouais, c'est ce que je dirais après, ouais.
Alors que là, de dire que la curiosité, ouais, peut-être que certains pourraient la trouver mal placée. Bah, évidemment que c'est une curiosité mal placée. C'est quand même pas le moment d'être curieux. Le moment, c'est quand même de sauver les gens qui ont froid et qui ont faim. Mais c'est un implicite de tout le texte d'Elodie. Et là, je ne comprends pas pourquoi elle fait ce qu'elle ne fait jamais. C'est pour ça que son style a une grande tenue. C'est-à-dire l'auto-commentaire. C'est une phrase qui commente la précédente, en fait. Ce qui est vraiment le truc anti-littéraire qui soit, quoi. Normalement, une phrase de littérature doit se commenter toute seule. Et là, voilà, elle fait un truc. Bon, c'est la dernière réserve que j'aurais. En tout cas stylistique aujourd'hui. Oui, à un moment, voilà, elle va parler, pour compléter un petit peu le côté « c'est à moi que ça fait du bien de faire du bien », elle parle à un moment de ses coéquipiers, elle parle de recherche d'intensité. Elle dit que dans leur vie, qui est une vie un petit peu de cadre, ils ont de l'énergie en trop. Tu vois, donc elle va beaucoup parler du fait que ça leur fait du bien, en fait. Ce qui en fait pas des connards, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, et c'est à aucun moment le livre nous dit ça. Il nous dit, ah, mais en fait, ces gens-là qui se parent de vertu, en fait, c'est pour eux qu'ils le font, hein, c'est de l'égoïsme. Jamais elle dit ça, parce que c'est plus compliqué que ça. Ça n'enlève rien à la générosité de ces gens, en fait. Simplement, cette générosité, elle est plus complexe qu'une simple générosité. Et tant mieux, d'ailleurs, s'ils ont une recherche d'intensité et qu'ils mettent leur recherche d'intensité comme ça, plutôt que d'aller faire, je sais pas quoi, des week-ends cohésion avec des concours de paddle collectif. C'est quand même le mieux qui puisse arriver à des cadres.
Ouais, et puis aussi au fait qu'il n'y a que dans ce genre de situation que tu peux rencontrer ce genre de personnes, quoi.
Bah oui.
Parce que sinon...
Oui. Ben, elle le dira bien un moment quand elle se balade dans la rue, parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'elle habite le quartier où elle maraude. Parce que c'est pas toujours le cas, j'imagine, chez les bénévoles. Et donc c'est super intéressant, parce qu'il y a plein de notations qu'elle fait dans le livre, qui est vraiment un livre très intéressant sur ce que c'est que d'habiter dans une ville, quoi. Et elle dit, quand je me balade dans la rue le jour hors maraude, je vois pas du tout les mêmes trucs. Alors que quand je me balade en maraude la nuit, je suis attentif à des détails auxquels je ne suis pas attentif, etc. Ben oui, il y a mille façons d'occuper une ville. Et elle, il se trouve qu'elle a cette bivalence de parfois remonter la même rue le jour et la nuit, et c'est pas la même rue.
C'est pas la même.
D'ailleurs, elle dit qu'à un moment, elle le fait avec son fils ou sa fille, je sais plus.
Son fils.
Et ben oui, à ce moment-là, elle remonte la rue en tant que maman. Et la maman va pas être attentif au même truc quand elle est avec son fils. Que quand elle est dans un camion ou une bagnole avec des coéquipiers maraudeurs qui cherchent le sans-abri.
Alors, le deuxième groupement de phrases, le voici. Ça commence avec un premier passage, page 29. que je lis. Donc Mohamed nous salue de la main quand on sort de la voiture. Il connaît bien l'institution qui vient le voir depuis un an, souriant, allongé dans son sac. Il n'a ni faim ni soif, il est fatigué. Il nous salue, mais il aimerait qu'on parte. Bon, ok pour un petit café, et après vous partez. Et puis page 141, c'est le premier habitat que je vois comme ça, c'est joli, brillant. C'est bien isolé ? Oui, il en est content. C'est thermoréflecteur à bulle d'air, il a mis 3 couches, ça fait 2 hivers qu'il a isolé comme ça, ça marche bien, il conseille. Alors on retrouve dans les deux pages l'écriture démocratique qu'on avait analysée avec le livre de Joyce Ormond, c'est-à-dire des fragments de discours directs fondus dans la description narrative du roman. Et ce, sans que les prises de parole des personnages ne se distinguent par un retour à la ligne tirée ou des guillemets. Alors, il y a plusieurs manières d'envisager le recours à cet effet de style. La première, c'est d'abord de se rendre compte que ces sans-abri, dans les extraits qu'on a sélectionnés, Mohamed et Thomas, sont relativement autonomes par rapport à l'aide de l'institution. Du coup, la fusion de leur discours direct avec la description de la narratrice irait bien dans le sens de l'hypothèse que tu avais évoquée dans le livre de Joy, c'est-à-dire que les sans-abri prennent en charge la narration dans l'esprit de leur autonomie.
Ouais.
Une mise à égalité, en quelque sorte, entre l'auteur et ses personnages, malgré leur précarité. Et donc, c'est une manière aussi, comme tu le disais chez Joy, de ne pas être en situation de surplomb pour l'auteur.
Ouais.
Après, il y a une autre façon d'envisager le recours à ce style. En fait, comme le réel nous parvient toujours d'un bloc à l'instant présent où on le vit, du coup, il y a une forme de fidélité par rapport à cette impression de le restituer en mettant toutes les informations au même niveau, sans mettre en exergue certains aspects plus que d'autres, comme les romans le font habituellement avec des guillemets ou des retours à la ligne tirée pour du discours direct. Et puis pour revenir à cet esprit documentaire, on a des phrases vraiment à ras du réel. Si je prends la deuxième phrase, page 141, je la cite, « C'est thermoréflecteur à bulle d'air, il a mis 3 couches. » Cette phrase, elle est purement descriptive. Et pour autant, dans ce contexte de maraude, la phrase contient une multitude de choses. 1. Ça renvoie à la capacité de débrouillardise de ces gens. 2. Les 3 couches renvoient à la grande précarité de la personne et au froid de l'hiver. Et puis 3. Cette précision du terme thermoréflecteur à bulle d'air, ça crée malgré tout une petite zone d'humour dans le sens où la sophistication de cette isolation, elle bat en brèche le cliché qui voudrait que les personnes les plus précaires désignés sur le marché du travail comme des personnes peu qualifiées, en fait le sont, mais à d'autres niveaux. Du coup, avec ces 3 perceptions d'une réalité donnée, humour, débrouillardise, précarité, l'autrice, par ce style documentaire, n'a pas besoin de faire des couches, c'est le cas de le dire. En tout cas, il n'y a pas besoin d'alourdir son texte de phrases de commentaires. Les observations parlent d'elles-mêmes, le réel parle de lui-même.
Oui, pour peu qu'on l'agence bien, le réel parle de lui-même, ou comme disait l'autre, les mots parlent d'eux-mêmes.
C'est qui disait ça ?
Non, c'est moi.
C'est toi ?
Non, parce que pendant tant longtemps, quand je réfléchissais un petit peu à ce qui me plaisait tant dans cette écriture-là, je me disais, oui, les choses parlent d'elles-mêmes, faire parler les choses. Et les faits parlent d'eux-mêmes, faire parler les faits. Ce qui est tout un art de faire parler les faits. Puis au bout du coup, je me dis, c'est les mots qui parlent d'eux-mêmes, justement. Parce que l'art consiste à faire en sorte que les mots produisent eux-mêmes de la réalité et qui n'ont pas besoin d'être commentés par d'autres mots. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Et qu'il n'y a pas de métalangage au sein même de la phrase. D'où ma surprise, encore une fois, par rapport à la petite parenthèse que j'ai stigmatisée précédemment. Faut toujours un petit peu aussi remettre les choses à un statut simple, en fait. Tu sais qu'un livre, par exemple, va rendre compte d'un hiver de maraude de la narratrice. Tu te le projettes un peu mentalement. Et tu vois 2 choses, éventuellement, au plus simple et peut-être au plus banal. Tu vois quand même qu'il sera beaucoup question des SDF. Et que ce sera essentiellement... L'affect maître sera probablement, ou le sentiment dominant sera la compassion qu'on leur voue et qu'ils nous inspirent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tu entends tout de suite une tonalité. Souvent, d'ailleurs, on associe des livres sociaux, on pourrait dire que ce livre est un livre social, en première nomination. On y associe toujours un truc un peu malheureux, ce qu'on entend communément par le social. Les sans-abri, tu vois. Bon. Alors, comment est-ce que Élodie Fiaban impose son style ? Elle l'impose en déplaçant ça. En faisant pas exactement le livre qu'on avait projeté mentalement en connaissant son pitch. Et par 2 choses. D'abord parce que précisément, elle complique les rapports affectifs entre qui passent des maraudeurs au SDF et réciproquement. Et deuxièmement, qu'elle met de l'humour. On n'a pas la tonalité sociale un peu grisouille qu'on associe toujours. C'est-à-dire les gens, ils disent ouais, c'est les frères Dardenne, quoi. C'est, tu vois, ça rigole pas, quoi. C'est... Ou Ken Loach, à la fin, les gens se suicident dans les toilettes. Enfin, Non, là, on se marre. Le livre est drôle, vraiment, quoi. Et là, on a un passage drôle. On a deux passages drôles. C'est d'abord à ce titre-là que je les ai rassemblés. Donc, après, tu as tout dit. Mais premièrement, moi, je vois le paragraphe sur Mohamed. Là, bon, je vois le mot souriant. On arrive devant un SDF, il est souriant. Ah, bah, c'est pas ce qu'on attend. Bon. Deuxième façon de contrevenir à l'attente. Normalement, nous, ce qu'on imagine, c'est que chaque sans-abri est toujours un peu content de voir arriver un maraudeur qui a du café, quoi. Enfin, quand même, c'est un café sympa, c'est gratuit, ça fait chaud. Là, le mec, il refuse. Mais et non seulement il refuse parce qu'en fait, il a pas faim, il a pas soif, il est fatigué, mais en plus, vraiment, ok, je vais prendre votre café, mais c'est pour vous faire plaisir. Inversion comique. Et je pense qu'en plus, c'est du comique vécu. C'est-à-dire que, à mon avis, la maraudeuse qui n'a pas de prénom a dû vivre cette situation. Par ailleurs, je ne suis pas dupe, hein, je suis suffisamment documenté pour savoir qu'il y a énormément de sans-abri qui détestent que les maraudeurs viennent les emmerder. Enfin, pour plein de raisons psychologiques très compliquées. Pas forcément d'ailleurs extrêmement réjouissantes, mais ils se sont tellement désocialisés qu'ils n'ont plus envie de voir personne. Ils ont honte. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles. C'est pas évident, en fait, que les gens soient absolument contents que des maraudeurs arrivent avec du café. Mais là, c'est, disons, la version un peu comique qui sera poussée d'ailleurs jusqu'au bout. Le comique d'inversion sera poussé jusqu'au bout dans la page d'après parce que le Mohamed en question, il éclate de rire quand il apprend, il dit mais vous êtes payé combien pour faire ça? Et là, bah, la narratrice lui dit on n'est pas payé. Et comment ça vous n'êtes pas payé pour faire ça? Vous êtes vraiment, c'est tout juste, il leur dit pas mais vous êtes vraiment des cons quoi. Plutôt que de les remercier d'être bénévoles, tu vois, on attendra bah, vraiment, c'est d'autant plus méritoire de votre part de passer vos nuits dans le froid. Non, il dit pas ça, il se fout de leur gueule quoi. Bah, ça c'est pas très attendu non plus. Donc moi je suis content de trouver cette scène comique là où j'avais peur un peu de trouver, enfin connaissant Élodie je n'avais pas peur, mais dans l'absolu de la thématique qu'elle aborde, j'avais un tout petit peu peur de tomber sur une espèce de litanie en fait du malheur citadin.
Et c'est d'ailleurs avec Mohamed quel mot spot qui intervient.
Oui tout à fait, là on est en début de chapitre hein, dans la phrase et le chapitre s'appelle donc un bon spot. Bah, le mec il est assez content quoi, il est là, il a trouvé son spot, bon. Bon, on imagine bien que Mohamed, ça ne doit pas être facile tous les jours pour lui, mais là, en tout cas, il n'est pas traité comme un pauvre malheureux qui n'appellerait que compassion. Et l'autre phrase, bah oui, pour moi, je l'avais prise un peu pour le comique aussi, tu l'as bien commenté. Peut-être une petite nuance, c'est qu'on n'a pas affaire exactement à du discours direct intégré dans la narration, comme tu l'as décrit, à l'assorement, et avec les soubassements que tu as très très bien rappelés, les soubassements démocratiques. C'est plutôt du style indirect libre, c'est-à-dire que c'est pas des paroles directement rapportées, c'est des paroles qui restent à la troisième personne quand même. Voilà, c'est une petite nuance, mais finalement.
Ah, si, parce qu'il y a un petit détail en fait graphique. C'est que parfois, tu vois, en plein milieu du texte, t'as une majuscule sans coup faire rire.
Oui.
Alors qu'il y a une virgule juste avant.
Tout à fait. Quand elle veut mettre du discours direct.
Oui.
Ouais, elle fait ça. C'est un mode de présentation qui est à court. Véronique Ovalde fait ça, par exemple. D'autres autrices ou auteurs. Bon, moi je suis pas fan, mais c'est vraiment les goûts et les couleurs. Chacun fait comme il veut. Pour conjurer la malédiction du tiret, et donc quand même signaler que c'est du discours direct, t'as plein de techniques, et t'as celle-là. Tu mets une majuscule, en fait, au début du truc, alors que c'est en plein texte. Là, non, dans l'extrait sur notre ami qui a des thermoréflecteurs,
c'est
la
Thomas,
Bluder,
il s'appelle Thomas.
Thomas. Là, c'est du style indirect libre parce que c'est bien isolé. Alors ça pourrait être du style direct libre. Oui, il en est content. C'est-à-dire que ça, c'est une façon de rapporter un discours direct où il a dit « bah ouais, je suis content ». Et donc, elle choisit ça. Mais au bout du compte, le bénéfice, c'est de créer un effet d'oralité. Et donc, avec cette espèce de valeur ajoutée de familiarité qu'il y a dans l'oral, qui, à mon avis, contribue très largement au comique. Parce que pour moi, la scène, elle est comique. Hein, toi, tu dis qu'elle est un peu humoristique. Moi, je dis qu'elle est carrément drôle. C'est-à-dire que les mecs, en fait, c'est une conversation entre deux proprios où tu sais quand les gens parlent toujours de leurs appartements. T'as avancé avec ta salle de bain, là ? Ouais, j'ai mis des néons, là, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, ça coûte combien ? Vraiment, je te conseille. Parce que c'est le rapport qui a été pris, tu vois, les gens, ils parlent de ça à l'apéro. Ouais, c'est une discussion comme ça.
Ils parlent de carrelage, les gens, de carrelage, tout ça.
Moi, je participe pas trop à ces discussions parce qu'effectivement, en immobilier, comment dire, je peux pas vraiment me la péter, et notamment en aménagement. Mais j'écoute des fois à l'apéro. Mon père et mon beauf, par exemple, ils parlent souvent de ça. Et là, ça se termine comme ça, tu vois. Ça fait deux hivers qu'il a isolé, donc il vient de nous dire « ça fait deux hivers que j'ai isolé ». Et comme ça, ça marche bien, il conseille. Donc on n'est pas du tout à ce moment-là, on casse totalement la scénographie attendue d'un dialogue maraudeur sans abri. On est en train, toi t'as un habitat, j'ai un habitat, on en cause, je te conseille, tu me conseilles, avec l'effet aussi d'inversion. C'est quand même le sans-abri qui est en train de conseiller en aménagement immobilier. Bon, voilà, tout ça est drôle. Et je pense que la familiarité de l'expression contribue à faire entendre cette scène qui est quand même qu'on pourrait appeler cocasse, en fait. Et avec Mohamed, tu l'as très bien lu tout à l'heure, je trouve, d'ailleurs. Tu as bien rendu compte de... C'est quelle page déjà, Mohamed ?
C'est page 29.
Page 29. Parce que t'as bien lu la dernière truc. C'est ça, tu vois.
Bon, ok, bon,
ok, pour un petit café, après vous partez. Ben, ça, faut le faire entendre pour voir. Le mec, il est presque pas goujat, mais il s'emmerde pas. Bon, s'il y a bien un truc que fait pas Élodie Fiaban, c'est bien ça, quand même. C'est-à-dire qu'elle désolanise, je dirais, la scène caritative. La scène caritative, elle a un petit passif de solennité qui est parfois tout petit peu pénible. On a l'impression que les gens se la pètent un peu, tu vois, qu'ils se regardent eux-mêmes faire le bien et qu'ils sont presque envoûtés par leur propre générosité. Bon, s'il y a bien un truc que fait jamais Élodie, c'est ça.
Et envoûtés par une forme de préjugé, d'auto-projection, en fait, avant même d'intervenir sur le terrain.
Ouais, voilà, ils se mettent en position de générosité. Et je pense qu'ils auront d'ailleurs un surcroît de compassion, un excès de zèle, pratiquement, dans la compassion vis-à-vis de... Alors qu'effectivement, la meilleure manifeste... Enfin, moi, j'ai pas de mode d'emploi à donner, à prescrire aux maraudeurs par rapport aux sans-abri. Mais il me semble que le vrai rapport égalitaire, ce serait par exemple de déconner ensemble et de s'accorder des espèces de réciprocité. Oui, c'est toi qui vas me donner des conseils en habitat. Oui, c'est toi qui vas te foutre de ma gueule de ne pas être payé. En tout cas, c'est un choix stylistique et un choix de tempérament qu'a fait Élodie Fiaban et qui me rend le livre d'autant plus sympathique.
Mm-hmm. Bah, on va maintenant prendre la voiture.
Ouais.
T'as ton permis ?
Toujours pas.
Bah, du coup, tu vas nous lire les trois phrases à la suite.
Ah, c'est une punition, en fait. J'ai pas le permis, donc je suis puni. Ok, je vois. Elles sont sur deux pages, ces trois phrases dont le rapprochement éclatera d'évidence à toute oreille attentive. Page 57. Apercevant un homme au loin, la voiture hésite, virgule, ralentit. Page 58. La voiture tergiverse, puis s'arrête devant lui, baisse la fenêtre et demande. Page 59. La voiture mortifiée accélère.
Alors ici, le fait stylistique, évidemment, c'est une déclinaison de traits psychologiques qu'on accole au véhicule de la maraude. C'est-à-dire que par des verbes ou des adjectifs liés à des émotions humaines, bah, l'autrice humanise la camionnette qui, par définition, n'a pas de psychologie. Alors pourquoi psychologiser cet objet ? Eh bien, peut-être commencer par dire qu'il n'y a pas de maraude sans camionnette. La camionnette, c'est en fait l'attribut par excellence de la maraude. Pour se rendre sur le terrain, les bénévoles ne font pas le trajet à pied puisqu'ils ont tout un tas de matériel et de nourriture à distribuer aux sans-abri. Mmh. Du coup, avant les rencontres sur le terrain, on peut considérer que le véhicule et son chauffeur ne font qu'un ou que le véhicule et ses passagers ne font qu'un. Et donc, psychologiser le véhicule, bah, ça permet de ramasser plusieurs réalités en moins de mots puisqu'on a à la fois la perception du mouvement du véhicule sur la route, mais aussi, dans le même temps, une saisie psychologique du chauffeur ou de ses passagers, laquelle psychologie a une incidence sur la conduite du véhicule. Et donc, ces deux modalités de perception, on les a à chaque fois en quelques mots, par l'intermédiaire d'un verbe ou d'un adjectif.
T'as tout dit sur l'humanisation de la voiture, ou la psychologisation, ou la personnification. Moi, j'aime bien, parce que souvent, elle fait dissonner les choses de façon extrêmement légère. C'est-à-dire qu'elle a des effets stylistiques qui sont souvent des micro-déplacements. Et ça, c'est ce que je préfère. Oui, la voiture hésite. On dirait pas du grand style, mais c'en est. Parce que c'est une petite torsion par rapport à ce qu'on pourrait attendre, et t'as décrit pourquoi. La voiture tergiverse, la voiture mortifiée, tiens, là c'est pas un verbe, c'est plutôt une voiture n'est pas mortifiée. Je pense qu'on pourrait aussi dire, ça serait sans doute pas complètement exact, et les vrais gardiens du temple des figures de style me reprendront, mais il me semble qu'il y a un effet métonymique à ce moment-là. La voiture vaut pour les gens qui sont dedans, ou alors un effet de synecdoque, j'ai jamais compris la différence.
Métonymie.
Ok, on est sûr de la métonymie. Et alors, du coup, ça a deux effets, je pense, quand même, cette opération. C'est d'abord de toujours grouper en un tous les maraudeurs. Donc, il n'y a toujours pas d'élément de distinction de la narratrice par rapport aux autres. Ils font corps. Là, en l'occurrence, c'est la voiture. Mais de temps en temps, c'est on, puis de temps en temps, c'est nous. Finalement, la voiture a à peu près la même fonction dans ces phrases-là. Il y a aussi, comme tu l'as très bien dit, que la voiture, c'est vraiment l'outil de la maraude, et c'est central, en fait. C'est elle, le personnage principal d'une maraude, d'une certaine manière. D'ailleurs, il y a un moment, il tombe en panne. Bah, il n'y a plus de maraude.
Ouais, c'est à la fin.
Ça arrive plutôt vers la fin. Oui, là, t'es comme un con. L'élément nécessaire et presque suffisant pour une maraude, c'est la bagnole. Pas complètement suffisant, quand même, il faut aussi des maraudeurs. Mais moi, j'y vois aussi, justement, cette capacité pour tous les maraudeurs de faire corps, et aussi pour la maraudeuse qui est la narratrice, de faire corps avec sa fonction. Puisque la voiture, c'est l'institution en elle-même, une espèce d'emblème et d'outil, et ben on a en fait l'opération de fusion de la maraudeuse avec sa fonction de maraudeuse. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'elle raconte beaucoup.
Fusion dont on reparlera.
Oui, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est limitée, la narratrice, là, à ses maraudes. C'est qu'est-ce que les maraudes me font ? Et comment, moi, j'incorpore les maraudes ? Comment, peu à peu, la fonction va faire le moine. On dit l'habit fait le moine, mais la fonction fait le moine aussi, quoi. C'est vraiment ça, c'est un sujet, et c'est un sujet de très haut vol quand on le regarde. Je note aussi que, avec cette petite distorsion-là, la voiture tergiverse, c'est un effet de style. Il y a tout là-dedans, parce que ça montre que la bonne échelle de la littérature, bon, peut-être que je suis un petit peu trop didactique ou dogmatique, parce qu'il n'y a rien à prescrire en littérature, mais quand même, je pense que la littérature, elle est vraiment chez elle quand elle se donne pour échelle un corps. Voilà. C'est le bon outil de la littérature pour voir ce qu'arrive à un corps. Et là, Élodie Fiaban va nous raconter ce qui est arrivé au corps de sa narratrice en devenant maraudeuse. Et ce qui lui est arrivé, bah, c'est d'incorporer la fonction au point de faire corps avec la voiture. Ce qui va apparaître dans les phrases qu'on a dites. J'avais noté juste une phrase pour compléter. À un moment, page 171, elle dit « Un flux nous pousse dans la voiture. Le flux qui a lancé la combustion interne du moteur, donc le moteur vient de démarrer, l'a fait démarrer comme les autres au feu vert. La voiture roule avec nous dedans. Elle nous a accordé une permission. Maintenant, elle nous ramène. » Là, on retrouve la voiture comme sujet des verbes. Mais il y a ce truc que j'aime bien, c'est « Un flux nous a poussé dans la voiture. » Et c'est le même qui avait, parce que c'est le moment où ils sont en panne, justement. Ils ont donc remis le moteur en marche en faisant un branchement.
Oui, parce qu'en fait, il y a un problème de batterie.
Il n'y a plus de batterie, voilà. Je vois qu'il y a un mécano à côté de moi et ça fait toujours plaisir. Parce que c'est très rare que je rencontre des gens qui s'y connaissent autant que moi en mécanique. Donc je peux jamais avoir de conversation bagnole. C'est hyper frustrant, quoi. Ouais. Et le même flux, c'est marrant parce qu'elle s'associe complètement à la machine. Le flux qui met en branle la bagnole qui elle-même a été mise en branle par son moteur, c'est le même qui les fait rentrer, eux, les corps dans la voiture. Résultat des courses, le corps est une machine. Cette idée du corps-machine qui nous vient d'un certain matérialisme du 16e, 17e, 18e siècle, ce livre en est absolument la descendante. Et ça s'inscrit encore une fois dans des faits stylistiques. C'est là qu'elle est définitivement une écrivaine. Rien qu'en disant la voiture tergiverse, tu fais éprouver ce que c'est qu'un corps-machine. Et tu fais aussi éprouver à quel point on finit toujours par incorporer sa fonction.
Bah là, tu t'anticipes sur...
Oui.
Pas la prochaine phrase, mais la celle d'après.
Un peu la prochaine aussi.
Un peu la prochaine
aussi. Un peu aussi.
Ouais, d'accord.
Bah, y a un ordre, tout ça a été un peu pensé. Ça a été quoi, 3 semaines de boulot, hein.
Bah oui, parce que c'est il y a 3 semaines de quart entre chaque
voilà, épisode. Il faut ça. Il faut ça.
Donc, avant de passer au prochain passage, je voudrais juste signaler à celles et ceux qui ont l'intention de lire le livre qu'on va potentiellement spoiler d'ici 3 secondes.
Oui, parce que c'est la dernière phrase, oui. Oui.
J'avais dit d'ici 3 secondes, mais toi, c'est dès la première seconde, tu spoil direct.
Mais non, mais je spoil, mais moi, ça laisse la possibilité aux gens de passer ce passage. Mm. Tu vois, on les a prévenus.
Donc, voilà. On est donc page 172. Bah, c'est à toi de lire, je crois.
C'est donc la dernière phrase.
Ah non, c'est à moi de lire, pardon.
C'est à toi de lire. C'est les deux dernières phrases.
C'est quoi, les deux dernières phrases du livre. Mm. Donc, nos corps de citadins confortés attendront que la ville tombe en panne pour la laisser. Ou peut-être qu'à la faveur d'un barbecue ou d'une fusée bricolée, ils auront envie de déserter la ville et on les suivra. Alors je disais tout à l'heure que les phrases restaient au ras du réel, bah ici on a un contre-exemple. Et ce qui fait décoller justement le texte, c'est d'abord le futur des verbes. L'impression de décollement, elle vient aussi du fait qu'on est en présence des deux dernières phrases du roman, comme on l'a dit. Du coup, que le texte finisse par un futur hypothétique et qu'après ce futur, ce soit la fin, bah ça place le texte à ce moment-là dans une forme d'échappée ou de rêverie.
Tout à fait.
Alors la ville, elle est présentée ici comme un environnement à fuir. Il faut savoir que dans l'imaginaire du livre, et j'imagine de l'autrice, la ville est associée organiquement au capitalisme. Hein. Le livre commence par une succession de boutiques et d'anciennes lumineuses. On a aussi à un moment un sans-abri qui dort au pied d'un immeuble relativement inoccupé, je crois, appartenant à un fonds de pension.
Ouais.
Ce qui nous signale au passage...
Québécois, je crois, dans mon souvenir. Oui, ce qui est intéressant, d'ailleurs, parce qu'il y a un truc, la ville mondiale, quoi. Ouais. La ville monde, ou les grandes métropoles internationales, ouais. Qui est Paris.
Ouais. Ce qui nous signale au passage que la ville est une zone d'hyperspéculation au regard des prix délirants du marché de l'immobilier, dans des grandes villes comme Paris. Et donc ce rapport à la maraude, c'est aussi dans ce livre une façon indirecte de se questionner par rapport à cet espace qui est la ville. On s'écoute Élodie Fiaban à ce sujet au micro de la radio RCJ.
Sans trop raconter la fin, mais le livre traverse un hiver comme ça et va vers le printemps. Et il y a comme ça un questionnement sur la ville qui tient les sans-abri sans leur donner le moyen de vivre, en gros. Et elle se demande si elle aussi, elle n'est pas tenue par la ville, s'il n'y a pas quelque chose comme ça.
Alors, être tenue par la ville, dit l'autrice, J'en dirai pas plus, si ce n'est de se pencher sur cet adjectif dans la première phrase, la conforter. Hein, nos corps de citadins confortés attendront que la ville tombe en panne pour la laisser, dit le texte. Alors il y a un double sens intéressant ici, parce que ça sous-entend que les corps des citadins se sont accoutumés au confort urbain, en plus du fait qu'ils jouissent précisément de ce confort.
Ouais.
Ce qui est plutôt bien vu, parce que ça renvoie dans l'habitude à la primauté du corps sur l'esprit.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Tu parles vraiment de primauté du corps sur l'esprit ?
Non.
Non, non, mais tu peux le dire, mais je m'étonne que tu cites pas la phrase que tu as sous les yeux et qui vraiment affirme absolument la primauté du corps sur l'esprit.
Ils auront envie de déserter la ville et on les suivra.
Voilà, mais enfin je vais la commenter plus avant. Bien, bien vu sur conforté, hein. Très bien vu.
Ouais, c'est bien vu de sa part. Ouais.
Non, non, mais bien vu de ta part. De sa part aussi, bien sûr, avant toute chose, mais de ta part, parce que moi, j'avais presque envie de le lire, ce terme, comme un espèce de néologisme. Ça serait le participe passé qu'on construirait sur le mot confort. Et ce qui va très bien encore avec sa grande idée qu'on incorpore toujours notre situation, c'est-à-dire que comme moi, je vis dans le confort, nous sommes, nous, des citadins de confort, ne serait-ce que parce que nous avons le confort de base d'avoir un toit. Et donc d'avoir un lieu où on peut rentrer chez soi le soir. Ce qui nous permet d'éprouver le froid, pas du tout de la façon dont un SDF l'éprouve. Un SDF éprouve le froid en se disant « je vais l'éprouver toute la journée, toute la nuit, et je vais éventuellement avoir 2-3 abris, mais à peine ». Donc nous, nous avons le confort mental et effectivement physique d'avoir un lieu où on est chaud. Et donc on est conforté. Tu vois, c'est comme si on avait fabriqué un adjectif sur le mot confort, parce que ça affecte totalement notre métabolisme que d'avoir ce confort-là. Mmh. Voilà, ça fabrique une créature, de la même façon que d'être dehors, fabrique un truc qui s'appelle un sans-abri, qui appelle un système affectif tout à fait contradictoire avec le nôtre. C'est pour ça que les rencontres n'ont jamais lieu. C'est aussi pour ça que la maraude qui permet la rencontre ne permet jamais qu'elle arrive. C'est pas la phrase d'Élodie, je l'ai lu tout à l'heure, je l'ai déjà oublié, mais on voit le sens. Mmh. Parce qu'on n'arrivera jamais à se comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux partager un moment de tendresse, de chaleur avec un sans-abri, mais jamais tu seras à sa place, quoi. C'est parce que toi, tu fais partie du monde conforté, et lui, il fait partie du monde dehors, et qui a complètement intériorisé, si je puis dire, le fait qu'il vive en extérieur. Donc c'est vraiment une... Ouais, puis tu l'as dit, en plus, il y a le conforté est ambivalent.
Ouais, l'idée d'accoutumance. Quoi.
Ouais, d'accoutumance. Ce qui est le maître mot, tu vois, ce qui nous renverrait un tout petit peu à ce qu'on disait sur la zone d'intérêt. Le vrai fait social fondamental, c'est quoi ? C'est l'habitude. Mmh. Si tu veux comprendre ce que ça veut dire d'être un individu socialisé, c'est-à-dire un individu, puisque nous sommes absolument socialisés, nous sommes des créatures absolument sociales, c'est comment tu t'accoutumes peu à peu au corps social et comment le corps social devient ton propre corps. C'est ça l'habitude, en fait. Et c'est vraiment le sujet, je dirais, référentiel, ça serait les SDF. Mmh. Le sujet central qu'elle essaie vraiment de débusquer et de creuser, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'être un corps dans la ville, c'est-à-dire d'être un corps dans un environnement social donné, et comment ça m'affecte profondément. Et donc oui, ce que tu appelles le primat du corps sur l'esprit, bon là des spinozistes vont te tomber dessus parce qu'il n'y a pas de dualisme chez Spinoza, donc il n'y a pas le corps et l'esprit, tout est corps ou tout est esprit. Je te laisse débattre avec eux sur les forums, mais en tout cas tu fais bien de dire qu'il y a quand même en tout cas un primat du corps chez Élodie qui s'inscrit dans cette dernière phrase, ou peut-être qu'à la faveur d'un barbecue. Alors ça commence quand même, il faut quand même voir un petit peu ce qu'elle fait dans la première. Nos corps de citadins confortés attendront que la ville tombe en panne pour la laisser. Cette phrase est courte, mais elle est courte parce que Élodie fait en deux lignes ce que d'autres gens feront en 33. Parce que là, elle te ramasse un truc qui est vachement puissant. C'est la ville tombe en panne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes un certain nombre maintenant à avoir une conscience écologique. Nous savons que la ville est une aberration écologique, parce qu'une ville n'est pas du tout autonome. Elle ne fait que... Il faut absolument l'alimenter en permanence, en aliments, en eau, en énergie, en plein de trucs. Donc la ville est un non-sens écologique, et il va bien falloir un peu dégorger nos villes pour s'en sortir un peu. On le sait, Élodie le sait, et c'est dans la phrase. La ville tombe en panne. Un jour, elle tombera en panne. Et donc, nous devrions nous barrer dès maintenant des villes, si on était des écolos conséquents. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Mais on ne le fait pas parce que nous sommes des citadins confortés. Et qu'en fait, pour l'instant, nos corps, bien que nous soyons très conscients écologiquement et que nous écoutions Jankovici et des écolos beaucoup plus radicaux que lui, eh bien, en fait, on ne part pas. Ben parce qu'en fait, on est dans le confort. Donc, notre conscience intellectuelle a tout à fait mesuré l'effondrement à venir, ou en tout cas la grande panne à venir, appelons ça comme ça plutôt. Mais nos corps, non. Hein. Nos corps, ils sont en confort. Hein. Ça va bien, donc là, il n'y a rien, moi, pour l'instant. Et donc, je ne quitterai la ville que quand la situation me donnera un coup de pied au cul. C'est ça que ça veut dire quand tu dis « attendront que la ville tombe en panne ». pour la laisser. Bon. Alors après, dans la deuxième phrase, elle fait une hypothèse un tout petit peu plus sympathique, à savoir que non, quand même, on va y aller de nous-mêmes. Mais on va y aller de nous-mêmes pas parce qu'en fait, c'est pareil, ce sera la conscience qui aura établi qu'il faut absolument qu'on parte des villes. C'est encore le corps qui décidera. Pour l'instant, notre corps conforté décide de rester en ville, envers et contre tout diagnostic écologique. Mais peut-être qu'un jour, un autre désir nous prendra. Et c'est le corps qui prime, et le corps, son moteur, c'est le désir. Désir et corps, ça veut dire la même chose, en fait.
Là, on retrouve Spinoza, là.
On retrouve totalement notre ami Baruch. Et alors là, peut-être que donc, ça serait l'autre hypothèse. Ils auront envie de déserter, c'est-à-dire que le corps sera pris d'un désir qui le poussera hors de la ville, donc déserter, mot qui a une grosse incidence politique en ce moment, hein. Les déserteurs, ceux qui font sécession, etc. Tout ça, c'est pesé par Élodie, hein. Donc je note bien qu'en trois lignes, voilà tout ce qu'elle te dit quand même. C'est tout simplement quelqu'un qui a une capacité de concision et de compression tout à fait exceptionnelle. Et donc, très belle fin, ils auront envie de déserter les corps, hein. Les corps auront envie de déserter la ville et on les suivra. C'est-à-dire qu'elle dit ceci, c'est vrai qu'elle fait un peu de dualisme là. Donc elle aussi, elle va se faire emmerder par les spinozistes. Mais sauf qu'elle ne sépare pas le corps et l'esprit. Elle sépare le corps qui est premier en nous à se mobiliser, c'est ça. Nous, on est à la suite. Oui, oui. Nous, c'est-à-dire notre, non pas notre conscience, mais en fait, on est toujours au crochet du corps. Oui, on est toujours, oui. C'est lui qui décide de tout, parce que c'est lui le ressort libidinal, le ressort affectif fondamental.
Et moi, c'est ma façon de penser.
Oui, oui, bah, on est un peu aligné sur cette thèse, ça c'est sûr. Quoi. Bah, donc elle a donné un équivalent stylistique à cette conviction que nous avons tous, à savoir que c'est les corps qui sont toujours au-devant de nous, et nous, on court après. Voilà. Qui est la grande nouvelle, d'ailleurs, Bergugnou, qui est un écrivain passionnant, mais aussi un commentateur de littérature, et un grand, grand fan de Faulkner, qui tient pour le plus grand écrivain du XXe siècle, et dit toujours que c'est ça, la trouvaille de Faulkner, c'est que chez lui, dans les années donc 10, 20, 30, plutôt 20, 30, 40, les personnages ont toujours agi, c'est-à-dire ils sont toujours précédés par leur corps. Le corps prend une décision, et la conscience se rendra compte de vaguement pourquoi le corps a fait ça, mais genre parfois 3 semaines après, 3 mois après, parfois même 30 ans plus tard. Et oui, je pense qu'une certaine modernité littéraire a acté ça et a donné une espèce d'équivalent narratif à ça. Faulkner, mais pas seulement en fait, il y a d'autres gens que Faulkner qui l'ont fait. Mais c'est vrai que c'est très spectaculaire chez Faulkner. Bon, cette phrase, elle s'inscrit dans cette lignée.
Mais Faulkner... C'est un écrivain préféré de plein de gens aussi.
Bah oui, bah Michon est intarissable dessus. Oui, bah oui, bah, c'est difficile
aussi,
de résister. Oui, c'est peut-être le premier écrivain que j'ai passionnément aimé dans ma vie. J'avais travaillé dessus. Mais... Oui, bah c'est difficile de résister à Faulkner, ouais. Parce qu'il gagne un peu sur tous les tableaux. C'est un grand narrateur, c'est un grand faiseur de personnages et c'est un grand moderne. Il a des livres très déconstructeurs, très à l'avant-garde en fait. C'est très étonnant comme mélange d'espèce de plouc du sud des États-Unis. Qui parfois a des gestes d'avant-garde littéraire proches de Joyce. C'est ça qui est tout à fait étonnant chez Faulkner, quoi. C'est qu'il fait de la littérature de plouc et en même temps hyper moderne. Je m'entends en disant plouc. Hein. Les gens qui me connaissent savent que plouc est un compliment dans ma bouche.
Alors on passe à la page 85.
Ouais. Vendée.
Ouais.
Département de Vendée 85. Mais les gens ne le savent pas
si,
assez.
Si c'est le département de la Vendée, c'est à toi de le lire alors.
Ah ouais, peut-être, ouais. Un beau jour, ils descendent de la voiture, ils cessent de s'étonner, ils font corps avec la fonction. C'est pour toi, c'est
merci.
Cadeau. Alors, il est question de la police, toi t'aimes bien tout ce qui est police.
J'aime bien l'ordre.
T'aimes bien l'ordre en général, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc la police.
J'aime bien que tout soit bien rangé.
Ouais, t'aimes bien. Puis même les rues, les banlieues. T'aimes bien que les banlieues soient en ordre.
J'aime beaucoup les villes américaines pour ça.
Ouais, c'est propre. Hein. C'est géométrique, c'est des rues comme ça. Ah non, bah c'est sûr qu'on n'est pas à Aubervilliers.
Alors, dans cette page, juste rappeler que bah, l'autrice établit quelques lignes, comme tu l'as dit avant, elle établit une ressemblance entre une descente de police et une intervention de maraudeur. Et ce qui lui permet d'établir ce lien, ce sont notamment, je la cite, la synchronisation, les uniformes, le bruit des rangers, fin de citation. La suite de cette réflexion dans la page, c'est la mise en avant d'un glissement commun entre... l'étonnement des premières fois à endosser la fonction de policier ou maraudeur et le moment où précisément ces agents font corps avec la fonction. Alors, dans la vraie vie, on sait comment s'opère la fusion entre un individu et sa fonction. Hein, c'est la fameuse force de l'habitude dont on avait parlé à propos de la zone d'intérêt. En littérature, cette fusion, elle passe par exemple par cette opération stylistique, c'est-à-dire qu'on a 3 fois le même sujet « il » avec pour chacun d'entre eux un verbe différent dans une seule et même phrase, et non pas 3. Avec en plus une absence de virgule, ce qui renforce encore une fois cette idée de continuum entre un individu dans l'exercice de sa fonction et la fonction elle-même. L'individu et la fonction ne sont qu'un seul et même élément.
Bah bravo, je pense que tu as vu ce qu'il y avait à voir, quoi, tout simplement. Ouais, absence de virgule, surtout. C'est surtout ça le fait notable de cette phrase. Ouais. Là, on aurait attendu un bonjour, virgule, ils descendent de la voiture, virgule, ils cessent de s'étonner, virgule, ils font corps avec la fonction, c'est flic, il est question de flic. Bah, elle a enlevé les virgules, effectivement, pour ramasser tout ça presque d'un même geste et donc donner un équivalent stylistique à ce qu'elle est en train de raconter, à savoir la fusion entre des individus et leur métier, leur fonction, leur uniforme. À un moment, ils font corps avec, donc on retrouve cette idée d'incorporation. Et la fameuse idée un peu sartrienne, hein, le fameux coup du garçon de café de Sartre, quoi. C'est comment le garçon de café, à un moment, fait le garçon de café et se rend même plus compte qu'il fait le garçon de café. Les premiers temps, il épouse des gestes de garçon de café, à la fois pour se rendre crédible comme garçon de café, puis aussi parce que bah, y a quand même des gestes attitrés de la fonction. Et sans doute que ça l'étonne, à un moment, de se retrouver avec un plateau dans la main, la première fois, c'est moi, alors que moi, ça fait 20 ans que je me bourre la gueule au café. Cette fois, maintenant, je suis passé de l'autre côté, c'est moi qui porte le plateau, c'est moi qui ai la petite sacoche où j'ai de la monnaie. Et puis, bah, au bout de 4 jours, il ne regarde plus, il ne voit plus, et il a incorporé totalement les gestes. Les gestes sont devenus une seconde nature, voire une première nature. C'est ça le fait social majeur. Et c'est ce que Détrier le dit, avec une grande modestie d'ailleurs, en l'occurrence, puisqu'elle commence par dire de sa propre surprise qu'elle a eue, elle, quand elle a eu les premiers jours l'uniforme de l'association pour laquelle elle maraude. Et puis, à un moment, elle s'en rend plus compte de l'uniforme. Ça y est, l'uniforme est devenu sa seconde peau, voire même sa première peau. Et elle se projette par rapport au flic. Là, c'est pareil, il y a une belle, comment dire, dimension d'égalité. En fait, elle, je ne suis pas sûr qu'Élodie Fiaban soit une grande dingue du corps de la police. Mais là, elle dit, d'une certaine manière, je suis comme eux. Et peut-être que je comprends mieux maintenant pourquoi certains flics ont des têtes de flics et des gestes de flics et des idéologies de flics et des pensées de flics. Parce qu'il y a un moment, ton corps, prend totalement toutes les habitudes de ton uniforme et de ta fonction telle qu'incarnée par l'uniforme. C'est peut-être d'autant plus vrai dans les métiers à uniforme, justement. Mais finalement, il y a des uniformes qui ne disent pas leur nom. Le petit costume bleu, très serré et très affûté de nos cadres, de nos consultants qu'on voit dans la ligne 9 le matin parce qu'ils vont travailler dans le quartier des banques, je pense que c'est un uniforme qui ne dit pas son nom. Mais je pense que les types, ils se mettent en position cadre, ils se mettent en position consultant à partir du moment où ils ont mis leurs petits souliers là.
Avec leur petite sacoche en cuir.
La petite sacoche en cuir, voilà. Donc, mais nous incorporons tous les habitudes de notre profession ou notre fonction sociale. Donc oui, je trouve qu'elle a, comme d'habitude, trouvé un équivalent stylistique discret, pas du tout démonstratif, pas du tout m'as-tu vu, qui est simplement « je retranche des virgules ». Une occasion pour préciser un petit peu ce qu'on pourrait appeler un livre social, justement. Je pense que l'adjectif social est accolé à certaines œuvres, films, livres notamment, théâtre éventuellement, de façon toujours un peu superficielle. Et de façon très erronée d'ailleurs, par rapport à ce que serait la pensée sociale, ce qui est autre chose. Sera un film social, c'est un truc qui se passe chez les prolos, et qui va un petit peu rendre compte dans les basses classes, en général classe inférieure. Donc là, on serait, ouais, c'est des SDF, donc ça va, c'est un truc social, quoi. Alors que si c'était un livre chez les bourgeois, ça serait pas un livre social. Tiens, bizarre, donc le social, ça serait juste les basses classes, mais non, tout le monde est une créature sociale, y compris les bourgeois, j'allais presque même dire, surtout les bourgeois. Donc c'est pas ça, social. Ce qui serait profondément pour moi un livre social, c'est pas son sujet, parce qu'il y a des prolos, il y a un moment où on les voit au Pôle emploi, ça suffit pas ça. C'est que tu interroges, tu questionnes, tu scannes, tu analyses la socialité des individus, à quel point ils incorporent le corps social dans lequel ils sont. Là, tu fais quelque chose de social, là tu penses socialement tes personnages. Et là, nous avons affaire avec Dans la ville, un livre absolument social, puisque son sujet central, c'est ça. C'est, de toute façon, tout est rôle social, toujours, on épouse des rôles, on endosse des uniformes, et c'est ça qui nous affecte profondément, qui fait qu'on finit par avoir un tempérament de notre fonction et par les gestes attitrés de notre fonction, etc. etc. Donc on tient vraiment le livre social de l'année. Beaucoup plus que les dizaines et les centaines de livres qui vont succéder, machin ayant fait une immersion parmi des migrants de Calais, tel autre aura fait une immersion dans d'autres zones où il y a tout un tas de souffrants. Je n'ai aucun mépris pour ces livres-là. Ce que je dis simplement, ce n'est pas parce qu'ils prennent ces sujets-là qu'il faut les appeler sociaux. Il faut voir dans le traitement s'ils produiront, comme Élodie, une analyse du phénomène très particulier qui consiste à vivre en société. Et c'est pour ça que le livre porte très très bien son nom, puisque la ville, c'est le lieu de la société. Tu ne peux jamais oublier que tu es socialisé dans une ville.
Il y a quand même une sursocialité dans la ville.
Il y a une hypersocialité qui d'ailleurs, je crois, fatigue beaucoup de gens. Je pense que la grande fatigue de la ville, on pense souvent que c'est les bagnoles, la pollution. Oui, effectivement, ça doit jouer. Mais je pense que c'est surtout l'hypersocialité. Nous sommes constamment socialisés en ville, là où peut-être dans des espaces un tout petit peu moins peuplés, on peut avoir davantage la paix. Et donc là, elle va très très loin. Elle est totalement fidèle à la, au béaba de la pensée sociale, hein, à savoir montrer à quel point nous sommes très plastiques. Vraiment, minute après minute, dans notre circulation dans la ville, ça peut évoluer, ça peut fluctuer. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Tu te balades dans une rue en tant que maman et avec ton fils, c'est pas la même rue et tu n'as pas le même corps que quand tu t'y baladeras 6 heures plus tard avec tes copains maraudeurs, etc. Les rapports, ne serait-ce entre soi-même et l'environnement, ne cessent de se reconduire et de se rejouer et de se renégocier à chaque seconde, enfin, on va dire à chaque minute.
La page 23 maintenant, hein, on est... Ouais. On est rarement déçu d'ailleurs quand il y a du 23.
Ouais, c'est toujours une bonne page, la page 23. C'est vrai, hein?
Ouais.
Ouais, c'est fou ça. On l'a remarqué dans pas mal de livres. Même, je lisais un Sylvain Tesson là récemment.
Même un Sylvain Tesson?
Ben, la page 23 était extraordinaire. Alors, la page 24, beaucoup moins, mais... Ouais.
Ben, 23, c'est Michael Jordan. Hein.
C'est aussi Michael Jordan, ouais, c'est sûr.
Alors, la phrase, je la lis. Généralement, je suis une femme.
C'est ça, la phrase.
Mystérieuse phrase, hein, quand même.
Tu peux la faire écouter parce qu'elle est quand même exceptionnelle.
Généralement, je suis une femme. Moi, c'est ma phrase préférée des phrases là qu'on,
ouais, moi aussi.
Qu'on est en train de...
Moi, je dirais du livre, moi. Non, mais vraiment, vraiment.
Ouais.
Ah oui, oui.
Moi aussi, peut-être du livre. Allez, avant de la commenter, précisons qu'on a ici une chute de paragraphe. Et donc, pour comprendre pourquoi c'est fort, peut-être dire que cette phrase, elle conclut une succession de vérités objectives, comme je cite... Généralement, je vais du bureau au métro, du cinéma au bar, du supermarché à mon appart. Généralement, je suis de passage, etc. Donc, il y a aussi une anaphore. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que ce « généralement » renvoie à des habitudes qui, prises en tant que telles et isolées les unes des autres, ne souffrent d'aucune ambiguïté. Sauf que là, ce « généralement, je suis une femme », comme il est en chute de paragraphe, bah déjà, ça confère presque à cette phrase une forme d'insularité, en plus du fait qu'elle charrie plusieurs dissonances. Dissonance de rythme, de par sa concision par rapport aux phrases précédentes, dissonance de sens avec les vérités objectives dont je parlais, hein, généralement je vais du bureau au métro, mais surtout dissonance du point de vue du corps. Hein, dans la vie, notre corps est soit un homme ou soit une femme. Hein.
Oui, où il y a des diagonales possibles entre homme et femme, comme tu sais.
Mais tu vois, par exemple, toi t'es un homme, moi je suis un homme, et il n'y a pas de généralement, il n'y a pas de journée où exceptionnellement notre corps devient l'opposé de ce qu'il ou elle est.
Tout à fait. À première vue, en tout cas.
À première vue.
En première pensée.
Du coup, bah, cet adverbe, il est en trop dans le sens commun. Mais en littérature, placer un « généralement » devant « je suis une femme », c'est juste parfait parce qu'il crée à ce moment-là une faille sémantique à la fois par rapport à la phrase elle-même, mais aussi par rapport au fait de parasiter l'anaphore du paragraphe. Et ce sentiment d'étrangeté sémantique à ce moment-là du texte, il va d'ailleurs de pair avec le mouvement du paragraphe qui est de partir du général au particulier. En l'occurrence, ce qui est particulier, c'est le fait d'être une femme en ville.
Bah, non seulement je trouve que tu as tout compris, mais en plus tu le dis vachement bien. Comment je pourrais le dire autrement en faisant un peu le malin pour justifier ma réputation? Ouais, c'est une ça claque, c'est généralement je suis une femme en fin de paragraphe, après l'anaphore, tu as tout dit. Le généralement note une habitude, quelque chose qu'on fait de temps en temps, mais pas toujours. Or, il est accolé, je crois que c'est ça qui crée la dissonance avec le verbe être, qui est souvent le verbe du permanent, notamment quand son attribut c'est une femme. Parce que des fois tu peux dire « je suis malade », ça veut dire que peut-être demain tu ne seras pas malade. Mais « je suis une femme », normalement c'est une substance permanente. Donc nous avons le « généralement » qui indique une fréquence, mais pas une permanence, qui vient percuter à jurer avec le verbe attitré du permanent, qui est le verbe « être », qui désigne l'être, ce qui ne bouge pas, ce qui est invariant. Et c'est ça qui crée la dissonance tout à fait volontaire. Alors là, elle sait très bien, elle mesure très très bien ses effets en mettant ça à la fin du paragraphe. Et on revient à notre histoire de qu'est-ce que c'est qu'être des êtres sociaux, puisque en fait, elle fait du Simone de Beauvoir hardcore, pratiquement, en faisant bah, le fameux « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est pratiquement un succès d'année de cette pensée lumineuse et géniale et inoubliable de Beauvoir. Parce que là, ce qu'elle montre dans les lignes précédentes, elle se décrit dans son usage ordinaire de la ville. C'est plus du tout en tant que maraudeuse. Mais c'est précisément parce qu'elle maraude qu'elle comprend toujours mieux son usage ordinaire. C'est ça la pensée dialectique aussi. Tu ne peux te rendre compte de quelque chose qu'à partir du moment où tu as envisagé son contraire, ou en tout cas quelque chose qui fait contraste avec. Donc elle pense dialectiquement. Et donc Elle comprend mieux son usage ordinaire de la ville à travers l'usage exceptionnel qu'elle en a à travers les maraudes, et elle dit « Le trottoir est transitoire, à peine un lieu, presque un moyen de transport. » Je trouve que c'est très bien dit de dire que le trottoir est un moyen de transport. Tu vois, ça c'est pareil, hein, c'est pas les effets stylistiques extrêmement démonstratifs, mais c'est vachement bien de dire ça. Ça fait voir quelque chose. « Alors je baisse les yeux, je marche vite, je choisis les voies les plus éclairées, les plus fréquentées, j'écoute les pas qui me suivent pour identifier leur sexe et leurs intentions. » Et c'est ça qui va mener à généralement « Je suis une femme ». Parce que qu'est-ce qui fait de moi une femme dans la situation de la rue ? Enfin, nous sommes toujours articulés à des situations. Je disais que c'était du Beauvoir hardcore, mais c'est aussi de l'existentialisme hardcore. Nous sommes ce que nous faisons, ou ce que fait de nous une situation. Là, elle va très très loin. Et qu'est-ce qui fait de moi une femme ? C'est l'insécurité de la rue.
Oui.
Parce qu'on sait très bien, et les féministes l'ont suffisamment établi, et beaucoup de femmes l'éprouvent dans leur chair, que la rue est aux hommes, notamment les rues de ville. Et que, par conséquent, la rue est souvent un lieu inconfortable pour une femme, possiblement agressif. On se fait insulter, on se fait machin, et parfois on se fait agresser, et autres. Et donc c'est là que vraiment je me redécouvre femme, dans la peur que peut me faire l'autre sexe, considéré en l'occurrence comme potentiellement agressif. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, ben, je suis pas forcément une femme, quoi. En tout cas, il y a plein de choses que je peux faire où ma féminitude ou ma féminité, je sais pas comment le dire, sera convoquée. Mais plein de choses que je peux faire où je peux m'éprouver moi-même comme neutre. Mais là, quand je suis dans la rue, alors là, je suis ramené à mon statut de femme à travers, disons, la menace possible du masculin qui tient les rues. Je le dis de façon beaucoup plus excessive par rapport à la sobriété d'Élodie, mais je pense que c'est quand même un peu tout ça qu'elle veut dire. Oui. Je note qu'elle le dit en trois lignes, hein, ce que je viens moi de péniblement essayer d'expliquer en 42 minutes. Bon, ce qui est encore une preuve de sa capacité de concision.
Bah, si des gens avaient des doutes sur le fait qu'Élodie Fiaben est une styliste,
ouais.
Je pense que là, les choses sont claires.
C'est vraiment une styliste. C'est ce qui m'a frappé quand j'ai découvert son manuscrit. J'avais pas beaucoup de doutes d'ailleurs, mais quand même, j'étais presque bluffé.
Okay. Ouais.
Immédiatement, dès son premier livre, elle s'impose comme ça avec une telle fermeté stylistique. Parce que je pense qu'elle a des phrases qui vont droit, quoi. Et encore une fois, ce n'est pas du stylisme au sens baroque et profus du terme, chose qui peut avoir son charme. Ça se joue autrement.
Alors avant d'attaquer la dernière phrase, on passe à la page 138, que je te propose de nous lire.
C'est encore moi ?
Ouais, parce que c'était moi avant.
D'accord. Alors, il faut que je précise avant toute chose qu'il est question d'un mouton dans cette
ouais,
page.
Ouais, j'allais le préciser, mais ouais. Vas-y.
On lui a évité un accident sur les maréchaux et on l'a privé de sa liberté. On l'a aidé et contenu. Il ne veut pas de ce rapport à l'institution. Il est vraiment anarchiste.
Alors, petite incise, on retrouve dans ce passage l'aspect documentaire du livre avec les maréchaux, boulevard qui existe vraiment à Paris.
Oui, c'est un peu les boulevards qui font le pourtour de la ville de Paris. Ouais. Non pas le boulevard périphérique en tant que tel, mais ouais. En fait dans le cercle concentrique inférieur.
Ouais, c'est ça. Alors le contexte de cette intervention, tu l'as dit, c'est que la narratrice et ses collègues ont trouvé donc un mouton sur la route. Les bénévoles se sont donc employés à le maîtriser contre son gré. Et cette simultanéité de volonté contradictoire, elle se cristallise dans les deux premières phrases de ce passage par le « et hein, ». On lui a évité un accident sur les maréchaux et on l'a privé de sa liberté. On l'a aidé et contenu, sachant que cette faroucherie, elle était déjà qualifiée d'anarchisme, page 135, sur ouais. Le ton de la blague. Ouais. Mais sans l'adverbe là, dans la dernière phrase, il y a l'adverbe « il est vraiment anarchiste ». Donc l'adverbe « vraiment », il vient à la fois redoubler cette note comique, mais il achève aussi de prendre au sérieux cette qualification.
Absolument. C'est vrai, tout à fait.
Voilà.
Non, mais t'as bien fait de rappeler que l'hypothèse que ce mouton légèrement réfractaire à se faire arraisonner par les maraudeurs a été formulé quelques pages avant ou la page d'avant
oui.
il doit être anarchiste, il doit y avoir un modélisateur de la forme, et là maintenant non, c'est pas vrai, c'est une certitude, il est anarchiste et il l'est vraiment. Et ce qui est beau, c'est que elle dit pas comme si, tu vois, un mauvais écrivain, ça existe, ou une mauvaise écrivaine aurait écrit, c'est un peu comme s'il avait été anarchiste, c'est un peu comme si nous avions affaire à un mouton anarchiste, l'effet comique s'en serait trouvé moindre. C'est beaucoup mieux de le dire au premier degré. Il est anarchiste, quoi. Point. Voilà. Puisque de toute façon, la littérature, c'est le lieu de l'hypothèse. Donc, c'est pas la peine de marquer les hypothèses. Tout est hypothétique. Bien sûr qu'on peut mettre en cause et en doute le fait que ce mouton ait lu tout Bakounine. C'est assez peu probable. En tout cas, pas tout Bakounine. Je pense qu'il en a lu quelques articles, mais pas plus que ça. Donc, voilà, évitez les comme si quand vous écrivez. C'est mon petit conseil de littérature pour les écrivains en herbe.
Comme si en musique ça marche mieux.
Oui.
C'est un chanteur. Comment il s'appelait ce mec ?
Il disait les comme si, c'est
qui,
comme.
Qui, ouais. qui chantait Aïcha.
Ah oui, Khaled.
Khaled.
Ouais. Alors, Chat qui doit être une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman.
Jean-Jacques Goldman.
Ouais, ouais. Mais on est mélomane aussi ici, c'est dingue quoi. Bon, donc il y a du comique dans tout ça, bien sûr, de dire que ce mouton est anarchiste parce qu'il veut pas se laisser embarquer par les maraudeurs. C'est quand même l'occasion de parler de ce choix de l'institution. Donc elle ne voulait pas nommer l'association pour laquelle elle a maraudé. Et elle a choisi l'institution. C'est évidemment pas un choix sans conséquence. Alors les Lordoniens, tout de suite, leur oreille frétille, parce que c'est un mot central dans la philosophie de Frédéric Lordon, qui est elle-même assez inspirée de Spinoza, en tout cas, qui
Frédéric
continue
Lordon,
les formes de...
qui est connu en tant qu'économiste et philosophe.
Essentiellement, ouais. Il a aussi gagné Wimbledon 3 fois, mais c'est quand même plutôt comme économiste qui nous épate, et est devenu philosophe depuis, enfin, ayant glissé vers la philosophie, et notamment...
Moi, je crois qu'il était champion de MMA, ouais.
Tu sais qu'il est, il fait de l'alpinisme à un niveau tout à fait haut. Donc, bah, ne te moque pas de son corps.
Ça m'étonne
pas. Ne te moque pas de son corps.
Ça se voit, il a un corps sec.
Ouais, ouais. Et donc l'institution, il a fait des élaborations philosophiques très savantes sur l'institution, sachant qu'il y a toujours une société, c'est une institution en elle-même, qui est redoublée et soutenue par d'autres piliers qui seraient d'autres institutions. La police est une institution, l'école est une institution. Mais ce n'est pas simplement le domaine de l'État. Ce qui fait société, comme on dit, et ce qui institue une société, ça peut être aussi... La médecine est une institution. Même la médecine privée est une institution. En fait, tout est institution.
L'école, la famille.
Tout phénomène social est institué. C'est ça, là. Il ne peut pas y avoir de société sans institution, nous dit Lordon. Je pense que quand même, Élodie veut faire entendre quelque chose de cet ordre-là à ses lecteurs qui, éventuellement, auraient... comme elle, une certaine passion pour ce philosophe. Donc il faut le dire, ça fait un peu happy few, mais je ne peux pas ne pas lire ça quand je vois ce choix d'appeler ça l'institution. Mais c'est aussi au sens où une institution nous institue. Et donc on revient toujours à l'idée qu'à partir du moment où je me mets sous l'égide d'une institution, elle m'institue, elle m'affecte, elle m'incorpore, elle me façonne. Et alors là, donc il faut prendre très au sérieux, de ce point de vue-là, tu fais bien de dire qu'il faut prendre au sérieux ce mouton anarchiste, parce que précisément, là, il y a une espèce de symbolique qui se met en place. Qu'est-ce que c'est que l'anarchisme ? C'est l'idée, précisément, de se soustraire pratiquement à cette espèce de malédiction sociale qui fait que la société nous socialise et nous informe toujours. Et donc, mouton contre institution, c'est vraiment, en fait, la scène fondamentale de l'anarchisme. Lordon dirait d'ailleurs que les anarchistes se mettent un peu le doigt dans l'œil et s'illusionnent en pensant qu'ils pourraient envisager une société qui ne soit pas instituée. Mais ça, c'est le grand débat qu'a Lordon avec les anarchistes. Je renvoie notamment à son livre qui s'appelle « Vivre sans ». Mais là, donc, en fait, elle s'est amusée à reconstituer, à nommer cette espèce de face-à-face entre les maraudeurs institués et le mouton comme une espèce de vieux classique de l'affrontement entre les anarchistes qui prétendent à se destituer de l'institution. Je pense que voilà, je décode un tout petit peu la phrase et je veux pas du tout que la critique soit du décodage, mais bon, en l'occurrence, c'est un peu codé quand même. Alors, tu as très bien vu l'écho presque musical grâce au et, à la copule et. J'aime bien placer cette idée que et est une copule. Elle fait copuler deux segments de phrase, puisqu'elle les articule.
C'est un super mot d'ailleurs, le « et ».
Ouais, on adore le « et ». Tu sais que certains ont pu écrire parfois que le « et » était l'articulation de gauche, par excellence. En fait, le « et » soutient une littérature de gauche. Oui.
Moi, j'aime bien commencer mes phrases par « et ».
Ouais, ça c'est pas mal de commencer une phrase par « et », ouais. c'est un effet de style. On lui a évité un accident sur les maréchaux et on l'a privé de sa liberté. On l'a aidé et contenu. En fait, la deuxième phrase explicite la première. Explicite ce qui s'est joué dans le paradoxe interne, qui en l'occurrence vaut pour ce mouton, mais qui vaudrait pour toutes les maraudes, à savoir, dans le même temps que nous aidons, nous faisons du tort. Dans le même temps que nous libérons, nous produisons de la coercition. Il y a une ambivalence fondamentale de toute association sociale, enfin en tout cas qui fait du caritatif, c'est qu'elle est à la fois une association pour aider les malheureux et pour les cadrer, les contrôler. Et c'est une ambivalence qui est au cœur du système social lui-même. Même les éducateurs sociaux sont comme ça. Même les assistants sociaux sont comme ça. Il s'agit toujours de, évidemment, je te donne un coup de main, mais c'est toujours un peu une façon de te contrôler. C'est que dans le même temps que je t'aide, je t'arraisonne. Parce que je te socialise, et te socialiser, c'est instituer, etc. Alors, elle va cesser de décliner dans plein de phrases cette ambivalence fondamentale du geste social et du geste altruiste, caritatif, notamment quand il est institué par une institution. Elle dit, par exemple, page 107, « La maraude est née à la croisée de la charité et du maintien de l'ordre. » C'est clair et net, hein. Page 123, toutes ces institutions l'accompagnaient et il est mort. Donc là, incapacité et impuissance de l'institution. Donc en fait, on ne sert à rien. Au bout du compte, on n'évite aucune mort. Il ne faut peut-être pas déconner. On ne fait que du petit réformisme. Hein. On ne change pas la vraie donne. Et les maintenir, c'est les laisser là. Nous cherchons à les maintenir et les maintenir, c'est les laisser là.
Mais c'est ça, c'est ce qu'elle disait dans les interviews. Ouais. C'est que les maraudes aussi, elles maintiennent l'existant.
Ben oui, tout à fait. Ça a toujours été, disons, la critique d'ailleurs révolutionnaire et radicale à tout système caritatif. C'est de dire... Bon, non seulement vous adoucissez la chose à la marge, mais d'une certaine manière, vous confortez le système en permettant d'être une espèce de variable de régulation, en quelque sorte, d'une société qui, sinon, irait à ses contradictions et immanquablement à la révolution. Page 124, elle dit « Ma place durement acquise dans la structure qui a tué Bertrand. » Sa place à elle, durement acquise dans la structure, et la structure dont elle parle, c'est la ville. Là, on se retrouve avec une idée qui portait un petit peu le livre d'Édouard Louis, qui était « Mickey a tué mon père ». C'était l'idée... Son père était mort symboliquement, parce qu'il n'est pas mort, mais ça l'a épuisé, il s'est épuisé au travail, parce que c'est un prolétaire qui a travaillé sur les chantiers, par exemple. Sauf que le livre d'Édouard Louis ne tenait pas du tout sa promesse, puisque là où on annonçait qu'on allait élucider la structure qui avait tué son père, dans une vraie pensée bourdieusienne structurelle, en fait, il nommait des personnes qui avaient été coupables. Il disait « c'est Sarkozy qui a tué mon père, c'est François Hollande qui a tué mon père, c'est machin ». Il ratait totalement une occasion, pour une fois, d'avoir fait une vraie pensée structurelle. Élodie Fiaban le fait vraiment. Elle a une phrase qui est « Ma place durement acquise dans la structure qui a tué Bertrand ». C'est la structure qui a tué Bertrand. Ce n'est pas tel ministre du logement ou tel insignifiant président de la République ou premier ministre. Voilà un vrai livre social dans la ville. Parce que des fois, tu as des livres faussement sociaux. C'est tout. La parenthèse est refermée. Je te vois sourire, je ne sais pas pourquoi, non, alors que je ne dis que des choses de bonne aloi.
Non, mais tu prépares vachement bien, je trouve, la transition avec la dernière phrase.
Oui,
mais
c'est vrai.
Je te laisse finir.
Ouais, ouais, c'est un petit peu cohérent quand même. Hein. Non, je voulais dire juste, oui, si. D'abord, la moindre des choses pour moi aussi, c'est quand tu fais un livre comme ça, c'est de penser contre toi. Voilà. Pareil, il me semble que quand tu vas te mettre en scène dans une posture qui est quand même plutôt gratifiante, tu es quand même du côté du bien, tu fais du bien aux gens. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment que tu penses un peu contre toi et que tu montres à quel point tu fais partie du problème, toi aussi. Et donc, oui, je fais, moi, partie de la structure qui a tué le SDF devant l'emplacement duquel elle se recueille. Ce qui nous mène effectivement à la dernière phrase.
La dernière phrase, page 26.
Ouais.
La maladie soignée par Médecins du Monde est celle de la propriété.
Bam. C'est moi qui ajoute bam, hein, c'est pas dans le texte. Ouais, page 26. Donc ça arrivait plutôt tôt dans une formule très radicale.
Phrase communiste, hein, un peu.
Oui. Au bas mot, communiste, ça me paraît presque trop modéré par rapport à cette phrase.
Anticapitaliste, en tout cas.
En tout cas, stylistiquement, c'est une phrase qui est extraordinairement compressée. Vraiment, quand on parle de compression, parfois en sculpture, quoi. Elle fait une énorme ellipse. On pourrait dire même qu'elle fait un énorme raccourci. Parce que si on reconstitue tout le raisonnement qu'il y a au travail dans cette phrase compressée, ça serait quoi? Ça serait en gros... Bon, Médecins du Monde, c'est une association bien connue hein, qui vient en aide aussi à des sans-abri. Souvent, on dit, alors voilà, être dans la rue donne des maladies. T'es à la rue, tu tombes malade parce que t'es exposé à tout un tas de trucs, etc. On pourrait se dire, si ces gens avaient un toit, ils tomberaient pas malades. Donc en fait, ces gens sont malades de ne pas avoir un toit. Ça serait ça leur vraie maladie, en fait. Ah, mais il y a autre chose à dire. C'est que ces gens, ils auraient un toit si le toit était gratuit. S'ils n'ont pas de toit, c'est parce qu'un toit n'est pas gratuit. Et pourquoi un toit n'est pas gratuit dans nos sociétés? Parce que nous vivons dans un régime de la propriété. Et autour d'un fétiche qui s'appelle la propriété, et autour d'une sacralité de la propriété privée. C'est tout ce raisonnement-là, qui est un raisonnement quand même très systémique, qui prend vraiment en compte l'ensemble du truc et qui ne se contente pas de courte vue, genre « Ah là là, ils sont dehors, donc ils meurent de froid, ou ils meurent de maladie, ou ils meurent de plein de choses, de virus qui chopent, ou de conneries, ou d'insalubrité. » Non, non, finalement, le raccourci est très très juste. Si on abolissait la propriété, c'est-à-dire ce qui reviendrait à communiser, à socialiser totalement l'habitat, il n'y aurait pas de gens qui vivent dehors, ou alors vraiment en pleine volonté de le faire. Mais ce qui peut arriver, mais sûrement pas quand il fait froid, je pense pas, quoi. Et donc elle le ramasse dans une formule, la maladie soignée par Médecins du Monde est celle de la propriété. De quoi souffrent fondamentalement nos sociétés? Non pas des sans-abri, du mal logement, machin. Ça c'est des conséquences. La cause des causes, comme on dit dans les pensées structurelles, c'est la propriété. Bon, c'est une pensée politique extrêmement radicale, mais où ça devient un geste stylistique, c'est précisément par le raccourci. Qu'est-ce que peut apporter la littérature à la politique. Bah, c'est un sujet beaucoup trop vaste et que je ne vais pas traiter aujourd'hui, mais il y a un truc qu'elle peut apporter de temps en temps, c'est précisément des raccourcis. Grâce à son outil maître, qui serait la concision, ou la capacité de ramasser du sens dans très peu de phrases, elle fait voir des rapports que d'habitude on ne voit pas, et que même des essayistes politiques un peu classiques peinerait à donner à voir ou à faire éprouver, parce qu'eux, ils n'ont pas forcément le sens de la concision, parce qu'ils sont un peu plus dans une logique dissertative, tu vois, où tu vas déplier des raisonnements. Voilà, là, on a l'exemple de ce que peut la littérature pour la politique.
Alors, on va retrouver les auditrices ?
Ouais.
Juste les auditrices.
Ah, il n'y a pas d'auditeurs ?
Non.
Bah, parce que c'est gêne littéraire, donc femme, quoi. Ouais. Bah, c'est fou, quoi.
Allez, on commence avec Armel, qui voudrait qu'on parle de l'usage de l'humour dans le livre, non pas pour mettre à distance la gravité de la situation des personnes croisées par l'autrice, mais pour se préserver de toute tentation de se l'approprier. La morale est-elle donc affaire d'humour ?
J'aime bien que tu mettes en relation la morale et l'humour, parce que je pense que pour une part, l'humour que pratique Élodie, on l'a bien vu dans son aversion à un moment. Là où on attendait de la compassion, finalement, elle met en scène un SDF qui se fout de leur gueule et tout ça. Donc on n'est pas dans le registre moral attendu. Et donc elle parle d'ailleurs à un moment de je sais plus, d'intensité immorale ou d'excitation immorale des maraudeurs. C'est assez immoral finalement qu'ils se sentent excités par le profit qu'ils vont tirer, le profit affectif qu'ils vont tirer du malheur des autres. Et donc, d'une certaine manière, là où il y a de l'humour chez Élodie, bah, il y a une éviction de la morale. Mais bien sûr que c'est au nom d'une autre morale. Voilà. C'est ça qu'il faut toujours dire à propos de l'art. L'art n'est pas amoral. Il est amoral par rapport à la morale courante, ça c'est sûr. Il essaie de s'en exfiltrer autant que possible. Mais il invente sa propre morale. Et l'humour d'Élodie, je crois, vient de son souci, que je trouve très moral, qui vient d'une certaine noblesse d'âme, de ne pas céder à des larmes trop attendues dans un sujet programmé comme étant larmoyant. C'est là que je dirais que l'humour d'Élodie s'inscrit dans une option morale.
Alors la deuxième question, c'est celle de Valérie. Dans la ville est écrit à la frontière du roman et du récit. D'où vient la distinction entre ces deux genres ?
Alors historiquement, je sais pas quoi, et je sais pas si même quelqu'un de beaucoup plus cultivé que moi est lettré pourrait te le dire, mais ce qu'il faut constater en fait, c'est que je pense qu'il faut pas trop se casser la tête sur ces mots-là, parce qu'on voit que dans l'usage, ils sont souvent utilisés ou brandis par les éditeurs, sur la couverture du livre ou pas, ou dans les argus, comme on dit, c'est-à-dire ou les petits pitchs que publient les éditeurs pour annoncer l'existence d'un livre et le promouvoir. On va appeler à peu près tout et son contraire roman ou récit, de façon pratiquement indifférente, parfois assez arbitraire, quoi. Donc j'ai tendance à rabattre les deux mots, quoi. Que roman et récit, pour moi, c'est un peu la même chose. Après, peut-être qu'on pourrait se raconter que le roman serait quoi ? Un récit fictionnel ? On pourrait peut-être se raconter
oui,
ça.
Oui.
On pourrait s'entendre entre nous pour dire qu'on appellera désormais récit un récit qui n'est pas fictionnel, ou en tout cas qui se présente comme documentaire et qui en a un certain nombre de stigmates. Et puis on appellera roman un récit fictionnel. Mais je pense que cette décision ne tiendra pas deux jours. Parce qu'on... je veux dire, qui n'appelle pas les livres d'Emmanuel Carrère des romans ? Tout le monde dit toujours le dernier roman d'Emmanuel Carrère. Or, Emmanuel Carrère est quelqu'un qui a arrêté la fiction explicitement et programmatiquement depuis 20 ans. Il ne fait que des livres documentaires. Et pourtant, tout le monde l'appellera romancier. Donc, bon, bah, Dans la vie, c'est un roman. Alors après, il faudra distinguer, il y a les romans narratifs, des romans moins narratifs, des romans fictionnels, des romans pas fictionnels. C'est ces catégories-là qui me paraissent beaucoup plus opératoires que roman-récit.
Merci François pour cette critique littéraire qui, comme d'habitude... a été enregistré non pas à la campagne, mais dans la ville.
Avec peut-être les bruits qui vont avec, non ?
C'est ça.
Ouais. T'aimes pas ça, toi, quand il y a les bruits de fond. T'aimes pas ça du tout, quoi.
Prochaine gêne, ça sera du cinéma, donc.
Ouais. Et je t'en ai pas du tout parlé, donc je vais pas te le dire, parce que j'ai une très bonne surprise pour toi.
Ah, t'as une surprise ?
Je pense que j'ai une bonne surprise pour pas mal de gens. Je pense que j'ai une idée de génie. La seule de ma vie.
Ça peut pas être Amaguchi, parce qu'Amaguchi, ça sort dans
non,
longtemps.
Non, mais alors je vais essayer de te le faire deviner en live devant nos 500 000 auditeurs. En fait, je me suis fait la remarque qu'il n'y avait rien au cinéma, parce qu'on commence déjà à être un peu dans le vide d'avant-Cannes.
Ouais.
Donc il n'y a vraiment rien là dans le mois qui vient. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui serait digne de notre attention. Donc je me suis dit...
Il y a le film d'Anne Fontaine quand même.
Voilà, évidemment. J'avais envie de me jeter dessus, comme sur toute l'œuvre d'Anne Fontaine. Donc je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de rattraper un film relativement récent, qu'on aime tous les deux, qu'on n'avait pas traité dans La Gêne quand il est sorti.
Ah ouais, d'accord, je vois.
Tu vois quoi ?
Ouais, je vois.
Quoi donc ?
Le Ravissement ?
Alors, j'étais sûr que tu allais dire ça, mais c'est l'autre. Il y a un autre film, mais plus ancien, un tout petit peu plus ancien que Le Ravissement, qui date pas de cette année scolaire-là, mais date de l'an dernier quand même.
Ouais, non, je vois pas.
Que j'avais mis dans mon top 5, et toi, je crois pas.
Ah, un Aung San Suu ?
Non.
Ah, Tar ?
Tar.
Que t'avais vu bien tard d'ailleurs.
Que j'avais vu bien tard. Merci de me rappeler cette blague que j'avais faite et que j'ai essayé d'oublier, mais merci de me remettre le nez dans mon incurie.
Mais mieux vaut tard que jamais.
Ouais, voilà. Et ouais. On aurait pu faire aussi un film de Bellata. Ou de Jonito.
Ah, mais pourquoi Jonito ?
Parce que tôt ou tard.
Oui.
Ah bah puisque c'est la fête du rire, moi je m'engouffre.
Hein. Et d'ailleurs, vu qu'on est dans les projections, on peut dire aussi que après tard... Si potentiellement on fait tard, il y aura...
Bah, si on finit pas trop tard, décidément, ça n'aura pas de fin.
On dirait un film de Quentin Dupieux.
Ouais, ouais, ouais. Ou un sketch de Raymond Devos. Et après, on ferait bien donc...
Amaguchi.
Amaguchi, que j'ai vu,
que
pas toi.
Vu. Que t'as vu, ouais.
Mais que je sais que tu vas adorer.
Ouais.
Parce que je te connais bien.
Bon, ben merci, merci à tous, merci François, merci aux auditrices. Salut à tous, salut François.
Salut.